Il est 7h, bon réveil.
Soulager un petit peu la mère et jouer ton rôle de père à fond pour le bébé, ça peut être pas mal. Et 28 jours, c'est pas trop.
28 jours au lieu de 14, le congé paternité va doubler et devenir en partie obligatoire. On vous explique les détails de cette annonce dès le début de ce journal. C'est un effet étonnant du confinement. Les hospitalisations pour crise cardiaque ont baissé de 30% en un mois. Beaucoup de patients avaient peur d'aller aux urgences. Payer sans contact, un réflexe pour bon nombre d'entre nous, même à la boulangerie, ça représente désormais un tiers des paiements en magasin. Dans ce journal, Jean Castex joue la transparence autour de la gestion de l'épidémie. Chef de parti et président de groupe parlementaire était invité à une réunion hier, mais beaucoup sont restés sur leur faim. Et puis les soupçons de dopage au sein de l'équipe cycliste française Arkéa Samsic, toujours deux gardes à vue et des coureurs qui continuent à pédaler. Ils disputaient la course Paris-Camembert hier.
La France qui veut revoir les règles européennes du déficit, l'éclairage éco de Nicolas Barré juste après ce journal. Le 75e anniversaire de l'ONU, Assemblée Générale en visioconférence, le regard international de Vincent Hervouet, l'édito sport de Virginie Fulpin et votre rendez-vous d'histoire avec Stéphane Bern. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Passer plus de temps à la maison quand bébé pointe le bout de son nez, c'était le souhait de nombreux papas. Ils sont exaucés puisque l'Élysée a annoncé hier soir l'allongement du congé paternité.
Bonjour Victor Delande.
Bonjour Mathieu.
Un congé qui va doubler.
Oui, il va passer de 14 à 28 jours et ce n'est pas tout. Une partie de ce congé sera désormais obligatoire. Car ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, un père sur trois ne prend pas son congé juste après la naissance, notamment les personnes en contrat précaire qui ont souvent peur d'être mal vues par leurs employeurs. 28 jours, ça replace la France dans le peloton de tête des pays européens en pointe sur le sujet, même si on est encore loin des 60 jours accordés aux papas en Suède. Une réforme qui s'appuie sur plusieurs études qui vont toutes dans le même sens. Plus le père ou le second conjoint s'occupe longtemps de son enfant, plus il sera confiant en tant que parent et plus il sera soucieux d'un partage équitable des tâches domestiques. C'est une réforme en plus très consensuelle puisque 80% des Français y sont favorables. Question calendrier, le texte devrait être présenté en début d'année prochaine au Parlement. Les premiers papas profiteront donc de cette mesure à partir du 1er juillet 2021. Alors j'ai calculé pour vous, pour disposer de ces 28 jours de congé paternité, il faudra concevoir l'enfant à partir du 1er octobre prochain.
Ah, je pense qu'il va falloir s'y mettre.
Très bien vu, Victor Delande.
Victor Delande et Emmanuel Macron sera justement cet après-midi à Longjumeau dans l'Essonne pour un déplacement sur le thème de la petite enfance, occasion de détailler cette nouvelle mesure.
Et maintenant, on s'intéresse à un nouvel effet collatéral du confinement, la baisse du nombre d'hospitalisations pour crise cardiaque.
Et oui, entre mars et avril dernier, elles ont chuté de 30% en 4 semaines. C'est ce que montre une étude française publiée dans une revue médicale. Ève Roger, comment est-ce qu'on peut expliquer que des patients victimes de crise cardiaque n'aient pas fait la démarche d'aller à l'hôpital ?
Eh bien, on connaît déjà une partie de la réponse. Certains confinés, même atteints d'une crise cardiaque, ont choisi de rester chez eux plutôt que d'aller aux urgences, car ils avaient peur de déranger, peur de ne pas être soignés, peur d'attraper le Covid. Et ça a été possible, car les symptômes d'une crise cardiaque ne sont pas toujours spectaculaires, explique le professeur Claire Mounier-Veillé, cardiologue au CHU de Lille.
Si par exemple l'infarctus se manifeste par une douleur dans la poitrine, par une difficulté à respirer, vous pouvez dire finalement je suis stressée par la situation actuelle. Si je pense notamment aux symptômes de l'infarctus de la femme qui sont extrêmement sournois et trompeurs, c'est une oppression dans la poitrine, un essoufflement à l'effort, et finalement elles se disent c'est pas grave, il faut que je gère les enfants, il faut que je gère la maison, je penserai à ma santé plus tard.
Et les conséquences sont graves, l'artère se bouche à bas bruit, la paroi du cœur s'abîme, provoquant ainsi une insuffisance cardiaque. Et puis c'est vrai qu'il y a eu aussi un peu moins de crises cardiaques pendant le confinement, et l'étude suggère plusieurs pistes, une vie ralentie, moins de stress, moins d'activité physique, moins de pollution de l'air aussi.
Ève Roger.
7h04 sur Europe 1. Plus de 10 000 cas de Covid ont été enregistrés ces dernières 24 heures, avec un taux de positivité en hausse à 6,1%. Nous devons tous apprendre à vivre avec le virus et forcément ça change nos modes de consommation.
Précaution sanitaire oblige, de très nombreux magasins recommandent le paiement par carte bancaire sans contact et les Français ont de moins en moins de réticence à l'utiliser. Vous vous êtes penché sur la question, Clément Le Saffre. Le sans contact aujourd'hui, c'est un paiement sur trois.
Oui, c'est spectaculaire. Le nombre de paiements sans contact a augmenté de 80% en août par rapport à la même période l'an dernier. Alors, première raison de ce succès, ses vertus hygiéniques. Plus besoin de taper son code sur le même clavier que tout le monde. Et c'est ce qui a convaincu Daniel.
Il y a moins de possibilités de se contaminer avec le coronavirus. C'est comme ça, on garde la distance, on se protège.
Alors c'est aussi ces raisons sanitaires qui ont poussé les commerçants à plus mettre en avant le sans contact qu'avant. Et puis, avec le relèvement du plafond de 30 à 50 euros, il s'est adapté aux courses quotidiennes. De quoi séduire Eric ?
On gagne du temps, je pense que pour les commerçants aussi, ils gagnent du temps parce que ça évite les gens qui cherchent leur monnaie, leurs moyens de paiement, et puis après l'attente de réponse du terminal quand c'est une carte bleue avec un code.
Résultat pour Julien Claudon, responsable des paiements monétiques à la Société Générale, les Français ont certes mis du temps à se mettre au sans contact, mais cette fois, ça y est.
Il y a un paiement sur deux qui était réalisé en sans contact à partir de tout début juin. Les quelques personnes qui avaient désactivé le sans contact, il y en a beaucoup qui ont contacté leur conseiller pour réactiver le sans contact. Et on a vu la même chose sur le paiement mobile. Depuis le déconfinement, il y a une croissance tous les mois de plus de 20%.
Et cette forte augmentation des paiements sans contact a aussi permis de balayer les craintes de piratage. Selon les analyses de la Banque de France, le taux de fraude s'élève à 0,02%, à peine plus que les paiements par carte traditionnelle.
Enquête signée Clément Le Saffre.
Le Covid au cœur de la réunion d'hier soir entre Jean Castex et tous les chefs de parti et de groupe parlementaire.
Oui, un rendez-vous qui avait été institué pendant la crise et qui vient donc d'être relancé. Pour le gouvernement, c'est un gage de transparence. Mais à la sortie, l'opposition était plutôt sceptique. Comme l'a constaté Claudia Bertram.
Une longue réunion pour faire la transparence absolue, vante le gouvernement. Jean Castex s'est engagé à transmettre le plan de gestion prévisionnelle de l'épidémie aux députés. C'était une demande de plusieurs responsables politiques et la présidente du RN, Marine Le Pen, s'en félicite.
On va pouvoir connaître quelle est la situation de la gestion des stocks, de médicaments, de matériel à usage unique, la gestion des places de réanimation. Tout élément qui nous avait échappé, c'est le moins qu'on puisse dire, lors de la première vague.
Mais les oppositions de tous bords dénoncent le flou du gouvernement sur un certain nombre de sujets, comme le premier secrétaire du PS, Olivier Faure.
On a posé beaucoup de questions, on a eu peu de réponses. On a même souvent eu l'impression que ils découvraient les problèmes qu'on leur soumettait.
Le patron des députés LR, Damien Abad, déplore quant à lui la lenteur de la politique des tests.
On a besoin d'apporter des réponses aux Français. Et aujourd'hui, pour nous, le compte n'y est pas. La politique de test, elle est hasardeuse, elle est hésitante et elle est parfois laborieuse.
D'autres réunions de ce type auront lieu aussi longtemps que l'épidémie circulera dans le pays, a indiqué le porte-parole du gouvernement.
Claudia Bertram, Europe 1 vous le disait dès hier soir, Alexandre Benalla a été admis à l'hôpital Cochin, l'ancien collaborateur de l'Élysée, épinglé en 2018 pour des actes de violence contre des manifestants et positif au Covid. Il se sentait mal depuis 3 jours.
Le Covid, occasion d'un échange particulièrement vif à l'Assemblée Générale de l'ONU à New York.
Échange par vidéo enregistré, Donald Trump s'en est vertement pris à la Chine, accusé d'avoir laissé le virus infecter le monde.
Nous sommes engagés dans une bataille féroce contre l'ennemi invisible, le virus chinois. La nation qui a lâché cette plaie sur le monde doit rendre des comptes. C'est la Chine. Dans les premiers jours de l'épidémie, la Chine a stoppé ses vols intérieurs, mais elle a autorisé des avions à quitter la Chine et à infecter le monde. Le gouvernement chinois et l'Organisation mondiale de la santé, qui est en fait contrôlée par la Chine, ont déclaré à tort qu'il n'existait pas de preuves de transmission humaine. Les Nations unies doivent tenir la Chine pour responsable de ses actes.
Et le président chinois Xi Jinping a de son côté assuré que son pays n'avait pas l'intention de rentrer dans une guerre froide, mais son ambassadeur à l'ONU s'est chargé de rejeter les accusations de Donald Trump. Si quelqu'un doit être tenu pour responsable, a-t-il dit, ce sont les États-Unis pour avoir perdu tant de vies. 200 000 personnes sont mortes selon le dernier bilan aux États-Unis.
Les yeux seront tournés vers Bruxelles. Aujourd'hui, la Commission européenne va proposer un nouveau système pour mieux répartir les migrants au sein de l'Union avec un mécanisme de solidarité obligatoire.
Le cyclisme, je suis un coureur propre, je n'ai rien à cacher. Ce sont les mots du Colombien Nairo Quintana après l'ouverture d'une enquête pour soupçon de dopage au sein de son équipe Arkea Samsic pendant le Tour de France. Un médecin et un kiné sont toujours en garde à vue.
Hier, la formation bretonne participait à la course Paris-Camembert, mais sans ses leaders. Sur le bord de la route, Cyril de la Morinerie a rencontré des fans de vélo plutôt désabusés.
Le soleil est au rendez-vous, la course est rythmée, mais le moral est en berne. Les nouveaux soupçons de dopage qui visent des membres de l'équipe Arkea ternissent la journée. Ces amoureux de la petite reine sont même fatalistes.
Arkea Samsic, c'est dommage pour eux, mais je pense que malheureusement, il n'y a pas que les premiers du Tour de France, je ne suis pas sûr, qui marchent à l'eau claire.
Devant le bus de l'équipe Arkea, c'est silence radio, personne ne veut s'exprimer. Le cycliste Paul Ourselin de la formation Total Direct Energy, qui connaît bien l'équipe bretonne, reste prudent et fait confiance à la justice.
Moi j'ai plein d'amis dans l'équipe Arkea qui, je sais, font leur boulot très sereinement et c'est peut-être le cas de tout le monde. Donc voilà, pas de conclusion hâtive. Voilà, nous on n'y pense pas sur le vélo, on fait notre course.
Mais évidemment, cette affaire n'est pas une bonne nouvelle pour le cyclisme. Se désole le vainqueur de cette course normande, Dorian Godon de l'équipe AG2R La Mondiale.
Donc c'est clair, ça fait jamais du bien à l'image du cycliste. Pour les gens qui font leur métier correctement.
En tout cas, dans le peloton, on a su rester vigilant et mobilisé dans la lutte contre le dopage. Livaro, Cyril de la Morinerie, Europe 1.
Et puis on vous avait parlé de cette vente aux enchères de 22 manuscrits originaux de Georges Brassens hier soir à Paris. Eh bien, ils ont dépassé les 337 000 euros au total, avec un record pour le texte de la supplique pour être enterré à la plage de Sète. Il a été vendu 55 000 euros, 36 fois son estimation.
Merci Hélène Zélani, c'était le journal de 7h sur Europe 1. Très bon réveil.
Europe 1, Mathieu Béliard.
C'est à la une sur Europe 1 ce matin. C'est le monde qui change en direct finalement. Emmanuel Macron va annoncer un doublement de la durée du congé paternité. Un témoignage aujourd'hui. Je reçois Tristan Champion, engagé pour le congé paternité. Papa de 3 enfants nés dans 3 pays différents. France, Norvège, Suisse. On va pouvoir se comparer. Véritable avancée, simple mise à jour, nouvelle contrainte. Je lui poserai ces questions à Tristan Champion dans le tête-à-tête Europe Matin à 7h40. Mais tout de suite, l'éclairage éco de Nicolas Barré et le regard international de Vincent Hervouet. Il est 7h11.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h13, l'éclairage éco avec Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Va-t-on en finir définitivement avec les fameuses règles de Maastricht et les 3% de déficit? C'est en tout cas le nouveau combat de la France à Bruxelles.
Oui, alors ces règles, vous le savez, ont été mises entre parenthèses par la crise du Covid. L'Union européenne a très officiellement suspendu ce qu'on appelle le pacte de stabilité et de croissance. C'était au mois de mars. Toute l'Europe entrait en confinement, les fameuses règles de Maastricht avec. Alors, ce carcan ayant sauté à l'époque, on pouvait donc ouvrir les vannes et déverser des dizaines de milliards d'euros d'argent public pour sauver l'économie. Mais les règles budgétaires étaient censées donc n'être que suspendues avant le retour à la normale.
Cette suspension, Paris voudrait qu'elle soit permanente.
Alors Paris, Rome et d'autres capitales jugent en effet que ces règles que nous ne respections déjà pas avant le Covid doivent être entièrement revues. Mais il y a une différence entre le penser et le dire. Clément Beaune, le secrétaire d'État aux Affaires européennes, un très proche d'Emmanuel Macron, l'a dit et a donc mis les pieds dans le plat hier en disant à l'AFP qu'il n'était pas imaginable de revenir en arrière. Le sujet est donc ouvertement sur la table et une fois de plus, l'Europe se divise entre ceux pour qui la règle est la règle et puis ceux qui veulent en changer parce qu'ils savent qu'ils ne la respecteront jamais. Prenez le cas de la France. Cette année, nous aurons un déficit public de 10,2%. L'an prochain, 6,7%. Nous ne sommes pas prêts de revenir à 3%. Quant à notre dette, elle va frôler 120% du PIB, le double du seuil limite qui est donc complètement pulvérisé.
Oui, mais Nicolas Barré, changer ces règles, c'est quand même changer fondamentalement le fonctionnement de l'Europe.
Alors oui, la crise du Covid a montré que ce qui était impensable peut arriver. Jamais, par exemple, on aurait imaginé possible que l'Allemagne et les pays du Nord acceptent le principe d'un endettement collectif pour financer la relance dans les pays qui en ont le plus besoin. Avec la révision des règles de déficit, la France, appuyée donc par d'autres pays, veut aller un cran plus loin. La logique est la même. Plus de solidarité financière entre les pays du continent, plus de tolérance et de compréhension vis-à-vis de ceux qui sont moins performants. Réviser les règles, c'est aussi retirer un argument à ceux qui dénoncent les carcans de Bruxelles, soit. Mais ça ne doit pas signifier qu'il faut abandonner toute discipline budgétaire pour autant. Cette tentation française n'est certainement pas un exemple à suivre.
Merci Nicolas Barré. 7h15, le regard international de Vincent Hervouet. Bonjour Vincent.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
L'ONU fête son 75e anniversaire et tient aussi son Assemblée Générale en vidéo.
Oui, alors depuis 2 jours, c'est le programme le plus navrant qu'on trouve sur Internet, où il y a pourtant forte concurrence. À cause du coronavirus, les chefs d'État sont restés dans leur palais. Ils font leur discours devant l'œil mort d'une caméra. 185 présidents à la queue leu-leu. Ces orateurs n'ont pas l'habitude qu'on leur coupe la parole, donc ils débordent. C'est un flot intarissable. Un raz-de-marée qui se déverse dans l'immense coupole vide au pied de la tribune en marbre vert qui fait penser à une salle de bain démodée. Tous d'accord pour dire « l'ONU c'est bien, le multilatéralisme tant mieux », comme s'il clamait « vive le débat, mais au milieu du désert ». Lundi, le discours était calibré à 3 minutes pour souhaiter bon anniversaire. À minuit, le Turc qui préside l'Assemblée Générale a appuyé sur pause. Il a ainsi censuré 55 chefs d'État, c'est un record. Le must mondial de l'anniversaire raté. Et hier, c'était encore pire avec l'Assemblée Générale.
Avec les discours des ténors, les présidents chinois, américains, russes, brésiliens, turcs.
Et là encore, discours préenregistré et 2 sortes de menteries. Les vindicatifs, c'est Trump qui veut que la Chine rende des comptes sur le virus chinois. C'est Bolsonaro qui se plaint que les ONG écolo complote avec les puissances étrangères. Et puis les tartuffes. Xi Jinping, adossé à une photo de la Grande Muraille, jure qu'il n'a aucune volonté hégémonique. Et Erdogan appelle à un dialogue sincère en Méditerranée. On entend chanter les anges, tout ça irréel, dans une salle vide. L'ONU n'allait pas bien. Avec le coronavirus, elle a plongé dans le coma.
Il a fallu des mois pour accoucher d'une résolution sur le coronavirus.
Ça, c'était le premier échec. Et puis le second, c'est la peur de la contagion qui impose ces débats en ligne. Ce sont des monologues croisés, un système stérile, parce que pour forger des compromis ou des alliances, il faut du face-à-face. Un minimum d'ordre multilatéral exige un maximum d'entretiens bilatéraux. Et le virus démasque donc l'ONU, ou même il la défigure. Elle ressemble à la vieille SDN, un machin qui n'a servi à rien. Et quand on éteint la caméra, eh bien le président se retrouve seul dans son bureau, seul à décider s'il faut fermer les frontières, renvoyer une frégate au large de Chypre, se replier du Sahel ou commercer avec l'Iran.
Vincent Hervouette, le programme le plus navrant d'Internet. Là, c'est un challenge, hein, parce qu'on peut trouver des choses intéressantes. Cela dit, je retiendrai, parce qu'on a l'image à la radio ce matin, l'immense coupole vide et le marbre vert de salle de bain démodée. Merci Vincent Hervouette. 7h18. À suivre, Bernard Laporte en garde à vue, le rugby français divisé, l'édito sport de Virginie Fulpin, c'est dans une minute, avant de retrouver Stéphane Bern et votre rendez-vous d'histoire.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h21 sur Europe 1, c'est l'heure de l'édito sport de Virginie Fulpin. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu.
Bernard Laporte, le président de la Fédération française de rugby, a été placé en garde à vue hier, soupçonné d'être intervenu auprès de la commission d'appel de la Fédération pour faire diminuer des sanctions contre le club de Montpellier. Pour vous, à 10 jours de l'élection du président de la Fédération, la fin de mandature de Bernard Laporte n'est pas à la hauteur des enjeux pour le rugby français.
On dirait un roman noir au cœur du rugby français, hein. Une guerre de clans, des invectives, des menaces et maintenant une lettre ouverte de Bernard Laporte au club qui fleure bon la théorie du complot. Le président de la Fédé est en garde à vue depuis hier avec 4 autres personnes. C'est sûr qu'à 10 jours de l'élection à la présidence, ça ne pouvait pas plus mal tomber pour Bernard Laporte. Il y a évidemment présomption d'innocence, hein, mais ça peut faire basculer les indécis, c'est vrai. Du coup, il s'engouffre dans cette brèche du calendrier défavorable pour parler de tentative de putsch et d'une campagne de déstabilisation savamment orchestrée qui s'abat sur le rugby français. Franchement, comme si Florian Grill, son principal opposant dans la course à la présidence, pouvait manipuler la police financière. Même l'avocat de Bernard Laporte se désolidarise de ce discours complotiste. Hein. Mais finalement, ça n'est pas si étonnant de ça, d'en arriver là, tant l'ambiance est délétère dans le rugby français depuis de longs mois. Plus personne ne se parle en fait, hein, à part pour un dialogue de sourds. Regardez ce qui se passe entre la Fédération et la Ligue au sujet des matchs du 15 de France cet automne. La Fédé veut 6 matchs alors que la Ligue ne veut pas laisser les joueurs à disposition des Bleus plus de 5 matchs. Ils auraient pu discuter calmement, hein, mais ça s'est envenimé très vite et la Ligue menace toujours de saisir le Conseil d'État. Bref, le rugby français vit un moment viril mais pas très correct. Hein.
Pourtant, c'est en ce moment que le rugby aurait besoin d'être rassemblé.
Bah, la crise sanitaire plus la crise financière qui en découle fragilise considérablement les clubs. Est-ce que c'est vraiment le moment de se déchirer en place publique pendant que le bateau coule? Est-ce que les luttes électoralistes sont vraiment plus importantes que de s'unir pour sauver le rugby français? Avec les jauges de spectateurs réduites dans les stades, il y a des clubs qui crient famine. Hein. La billetterie, c'est leur gagne-pain plus que les droits télé. En ce moment, ils ont la peur au ventre, le protocole sanitaire les étouffe et ce ne sont pas ces luttes fratricides qui vont leur donner confiance en l'avenir. Ils ont besoin d'unité, de discours clairs et d'actes. Alors je sais que c'est le jeu d'une campagne électorale, hein, on ne va pas être naïf, mais il faudrait quand même garder l'idée du rassemblement dans un coin de nos têtes pour l'après-scrutin.
Merci beaucoup Virginie Fulpin, l'édito sport. Et puis tiens Virginie, une autre info sport, je me suis dit que ça allait vous intéresser. Hier soir, l'attaquante des Bleus, Eugénie Le Sommer, est devenue la meilleure buteuse de l'histoire de l'équipe de France féminine de foot. Un doublé face à la Macédoine, 81e et 82e but en 172 sélections. Elle succède
à Marinette Pichon.
Ah, je me suis dit qu'elle le savait, que c'était un faux
piège.
Oui,
bah, heureusement.
Heureusement. Virginie Fulpin, merci beaucoup. 7h23. Et on retrouve Stéphane Bern. Il est l'heure de parler d'histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est la Saint-Constant. Mais je voulais vous parler d'un autre saint, la Saint-Glinglin. Bon, alors, ne cherchez pas dans votre calendrier. Aucune personne nommée Glinglin n'a été sanctifiée. C'est ce qu'on appelle un jour fictif signifiant jamais ou alors à une date très lointaine.
Oui, c'est la semaine des 4 jeudis ou encore tous les 36 du mois.
Exactement Mathieu. D'ailleurs, le saint de Saint-Glinglin n'a rien à voir avec les saints du calendrier. À l'origine, c'est le saint S-E-I-N-G, signifiant signature comme dans l'expression blanc-seing. et Glinglin évoque le bruit que fait une cloche quand on la sonne. Quand on dit « payer à la Saint-Glinglin », c'est payer quand la cloche sonnera, sachant qu'on ne sait pas quand elle sonnera. Un jour, une personne malhonnête avait établi un contrat où il était écrit qu'il payerait à la Saint-Glinglin. L'autre, un peu crédule, a dû porter l'affaire en justice pour tenter de se faire payer.
Et qu'a décidé le tribunal ?
Eh bien, il a décidé que le 1er novembre était la fête de tous les saints, dont également la Saint-Glinglin.
J'aime bien, moi.
Pour être complet sur le sujet, Mathieu, sachez qu'en Angleterre, on dit « when pigs fly », quand les cochons voleront. En espagnol, « cuando », en espagnol plutôt, « cuando las ranas crien pelos », quand les grenouilles auront des poils. Voilà des expressions bien étranges, mais qui disent la même chose.
Historiquement vôtre à 16h avec Mathieu Noël, Stéphane.
Oui, on réunit trois personnalités à qui Dieu a donné la foi. Dieu me donne la foi. Voilà, Louise de Lavallière, première maîtresse de Louis XIV, qu'elle a quittée pour rejoindre le Carmel, Sainte Thérèse de Lisieux et le rappeur Kanye West qui se prend lui-même pour Jésus. Bref, on vous raconte l'histoire sans se la raconter, c'est tout à l'heure de 16h à 18h avec Mathieu Noël sur Europe 1.
À tout à l'heure. 7h25 sur Europe 1, à suivre la météo avec Laurent Cabrol et un nouveau journal 7h30 avec Sophie Hechen. Très bon réveil à toutes et à tous. 7h29 sur Europe 1, Laurent Cabrol est avec nous, c'est l'heure de la météo.
Eh bien le répit sera à peine perceptible puisque nous voyons arriver déjà à une centaine de kilomètres des côtes bretonnes une nouvelle perturbation. La Bretagne sera touchée très vite comme le Cotentin, puis la vallée de la Loire dans l'après-midi, la Normandie, la Picardie, le Nord, le Poitou-Charentes. Une perturbation s'en va, mais elle donnera encore pas mal d'averses, faut bien le dire. La Côte d'Azur, les Alpes, la Franche-Comté, l'Alsace et les Vosges. En fait, cette perturbation, vous l'avez compris, elle suit la tranche est du pays. Et puis entre les deux, soit qu'un cas, les éclaircies vont percer quand même sur le Midi-Pyrénées, l'Auvergne, le Dijonais, la Lorraine. Et puis si vous habitez la Gironde, le Limousin, le Centre, Paris, Champagne-Ardennes, bah, de plus en plus d'averses, surtout cet après-midi. Les averses seront là, sur la capitale, un peu plus nombreuses qu'ailleurs. Les températures maximales, 20 degrés à La Rochelle, à Nantes, à Angers et à Brézé, dans le Maine-et-Loire, 21 à Caen et Niort, 22 à Belfort, 23 à Lille et Paris, 24 à Sedan, 25 à Biarritz et 27 à Toulouse.
Merci beaucoup Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Bonjour Sophie Hechen.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Le journal sur Europe 1, il est 7h30.
La crainte, c'est que Total veut juste faire une vitrine, sans s'occuper de la pérennité du site ou de l'emploi, d'afficher une belle vitrine parce que c'est à la mode. Faut faire du vert.
L'inquiétude des salariés de Total, de Grand Puy en région parisienne, la raffinerie va cesser de fonctionner, mais Total assure qu'il n'y aura pas de suppression d'emplois. Isolés, reconfinés, remplacés, que faire face à un cas contact au bureau ? Les entreprises tâtonnent. La nouvelle vie d'Édouard Philippe, libéré de la pression de Matignon et qui surfe sur la vague de popularité exprimée dans les sondages. Et puis 23 septembre, c'est peut-être votre anniversaire aujourd'hui, comme beaucoup de monde finalement, c'est le jour de l'année qui correspond au pic de naissance. Mais la tendance est en train d'évoluer, vous entendrez pourquoi.
Juste après ce journal, le tête-à-tête Europe Matin avec Tristan Champion, père de deux enfants, bientôt trois, nés dans trois pays différents. Son témoignage alors que la France s'apprête à doubler la durée du congé paternité. Il ne faut pas demander aux entreprises des contreparties aux aides de l'État, c'est l'édito politique de Nicolas Bétou, avant de retrouver Nicolas Canteloup qui coach à sa manière l'invité de Sonia Mabrouk ce matin, François Bayrou, haut commissaire au plan. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Fini le raffinage à Grand Puy, en Seine-et-Marne. L'information n'est pas encore officielle. Elle le sera demain matin avec la présentation du projet par Total devant les élus du CSE. Forcément, cela suscite la crainte des salariés. Que va-t-il advenir de leur emploi ? Il n'y aura pas de suppression de poste, assure la direction. Il s'agit seulement d'une reconversion. Pierre Arbulot.
Des cheminées, des cuves et des grands tuyaux qui s'entremêlent. Comme les champs de betteraves, la raffinerie Total fait partie du paysage à Grand Puy. On la voit depuis tous les jardins. Et c'est bien ce qui rend les habitants plutôt favorables au changement qui s'annonce.
Par rapport à ce qu'on respire, tout ça, pourquoi pas ?
Ça serait moins dangereux pour nous, mine de rien, qui habitons juste à côté. Donc ça serait parfait.
Si c'est un projet bien écologique, évidemment, on ne va pas s'en plaindre. Hein,
mais il y a un long mais, celui de Jean-Jacques Brichet, le maire de Grand Puy. Il a travaillé dans la raffinerie quelques dizaines d'années plus tôt.
Le résultat, c'est quand même les emplois et puis un petit peu derrière la retombée économique, hein, parce que c'est quand même important pour le territoire.
Dans le local CGT du site, David Picoron, lui, a même peur que Total utilise l'écologie comme un prétexte.
La crainte, c'est que Total veuille juste faire une vitrine, sans s'occuper de la pérennité du site ou de l'emploi, d'afficher une belle vitrine parce que c'est à la mode. Il faut faire du vert. Il faut produire plus vert. Vous ne m'entendrez pas dire que c'est négatif. Le débat, il est sur la transition. Là, c'est brutal. On est suspendu à ce qu'ils vont nous dire demain.
Si le groupe assure qu'il n'y aura pas de licenciement sec, le délégué syndical craint un plan de départ volontaire et des mutations forcées. À Grandpuits, Pierre Arbulot, Europe 1.
La crise du coronavirus, encore plus de 10 000 nouveaux cas enregistrés en France au cours des dernières 24 heures et un taux de positivité au test qui continue de grimper.
Un nouveau conseil de défense sanitaire doit avoir lieu ce soir ou demain. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, devrait annoncer de nouvelles décisions à propos de Paris notamment.
En attendant, le nombre de cas contacts augmente. Résultat, les entreprises font face à un véritable casse-tête, notamment là où le travail a repris en présentiel.
Comment gérer ces cas ? Faut-il les repasser en télétravail, les remplacer ? La question vire parfois à la prise de tête, comme l'a constaté Élise Dangean dans l'entreprise franco-américaine Image, qui emploie 25 salariés.
La vie s'arrête pendant une semaine. Il faut se remettre en mode confinement.
Retour en télétravail la semaine dernière pour Laurence, directrice de clientèle dont le fils présentait des symptômes du Covid-19. Et ses allers-retours entre présentiel et travail à distance deviennent récurrents dans son entreprise. Les cas contacts s'accumulent. Il a même fallu reconfiner toute une équipe d'une dizaine de personnes sur 25 salariés au total. Et ce n'est pas sans conséquence sur le travail, selon Elisa, manager.
Il y a un manque de continuité en fait. Dans la relation des équipes et dans la construction.
Et celui qui jongle avec les plannings, c'est Lionel Roch, le directeur de Franco-American Image.
Quand vous êtes patron de PME avec 25 salariés, vous faites l'office de DRH. Donc tous les matins, je regarde ma messagerie pour savoir qui m'a eu un cas contact et qui va rester à la maison. On pilote à vue, mais en plein brouillard. Tous les jours, on avise et on improvise.
Le chef d'entreprise regrette notamment la lenteur des tests Covid dont les résultats peinent à arriver et retardent le retour des salariés au bureau.
7h34 sur Europe 1. 28 jours au lieu de 14. La durée du congé de paternité va doubler. Emmanuel Macron doit officialiser la mesure aujourd'hui. Celle-ci devrait entrer en vigueur à la mi-2021.
La politique et la cote de popularité d'Edouard Philippe qui ne faiblit pas. Plus de 2 mois et demi après son départ de Matignon, l'ancien Premier ministre, maire du Havre, refait surface pour soutenir ses proches engagés dans les élections sénatoriales.
Ce soir, il sera aux côtés de son ami, le ministre Sébastien Lecornu, dans l'Eure. Vendredi, direction Angers pour la rentrée de la République des maires. Aurélie Herbemont, à quoi ressemble la nouvelle vie d'Edouard Philippe ?
Il est heureux, ses proches n'ont que ce mot à la bouche pour parler d'Edouard Philippe. De retour dans sa mairie, il a repris la plume avec son ami le député européen Gilles Boyer pour écrire un livre sur l'art de gouverner. La politique n'est jamais très loin et pas qu'au Havre. Il déjeune régulièrement avec des ministres. Edouard Philippe va aussi devenir administrateur du groupe informatique Atos. Un retour à une vie plus normale à un détail près, il est populaire. Il voit les sondages, mais vous savez ce qu'il en pense, glisse un de ses proches. Auprès d'Alain Juppé pendant la primaire, il a vu qu'il ne sert à rien de faire des plans sur la comète en s'appuyant sur des bons sondages. D'ailleurs, personne ne sait ce qu'il fera de sa cote. Seule certitude, il s'est créé un patrimoine politique, confie un de ses amis, qu'il n'imagine pas une seconde se lancer dans une aventure présidentielle contre Emmanuel Macron. On a été biberonné à la loyauté, assure un juppéiste. Mais ses amis ne disent pas jamais la présidentielle, avec cette phrase qui revient en boucle. La vie est longue.
Aurélie Herbemont du service politique d'Europe 1. Une centaine de médias, dont Europe 1, appellent les Français à se mobiliser pour la liberté d'expression. Des journaux, magazines, chaînes de télé et radio en soutien à Charlie Hebdo qui fait une nouvelle fois l'objet de menaces après la republication des caricatures de Mahomet. La tribune est à retrouver en intégrale sur notre site europe1.fr.
Et puis, quel est le point commun entre Julio Iglesias, Romy Schneider, Eugène Saccomanno ou encore Bruce Springsteen ?
Eh bien, tous sont nés un 23 septembre. Peut-être comme vous d'ailleurs, le 23 septembre, c'est la date connue pour être le pic de naissance dans l'année. Et ça s'explique assez facilement, remonté 9 mois plus tôt et nous voilà la nuit du réveillon. Mais au-delà de ce pic du 23 septembre, globalement, il n'est plus de bébés en été qu'en hiver. En l'espace de 100 ans, Anne Le Gall, la tendance s'est totalement inversée.
Oui, il y a un siècle, il y avait jusqu'à 10% de naissances supplémentaires en février-mars par rapport à l'été, tout simplement parce que les fêtes religieuses influençaient les périodes de conception. Les relations sexuelles étaient notamment découragées pendant le carême et reprenaient de plus belle après, d'où les pics en hiver et les creux en automne, 9 mois plus tard. À partir de 1945 et jusque dans les années 80, ce pic des naissances s'est déplacé vers le printemps, en raison des congés d'été plus fréquents propices au rapprochement des couples. Et depuis quelques années, nouvelle tendance, explique Isabelle Robert-Bobet, chef de la division enquête et études démographiques à l'INSEE, le pic des naissances a lieu désormais en juillet.
Il y a une préférence pour la belle saison, c'est l'été. Après, on n'a pas des conceptions qui sont faites d'une manière certaine. Il y a aussi des délais, mais on est plus sur une préférence des couples pour une certaine saison pour leurs enfants.
L'originalité aujourd'hui, c'est donc de naître en décembre ou en février-mars, les mois creux. L'originalité, c'est aussi de naître le week-end, notamment le dimanche, car avec l'augmentation du nombre de césariennes et d'accouchements programmés, il y a davantage de naissances en semaine.
Beaucoup sont en train de calculer là, hein, de oui, calculer moins 9 mois, de calculer quel était l'événement. Donc le pic des naissances du 23 septembre s'explique par la nuit du réveillon. Merci Sophie Echen, c'était le journal de 7h30. Et puis, pic de natalité ou pas, quelle que soit la saison ou le jour de la semaine, vous allez rester à l'écoute sur Europe 1. Le congé paternité est à la une. Sa durée va doubler, Emmanuel Macron l'annonce aujourd'hui. Une partie de ce congé sera rendue obligatoire. Développement de l'enfant, équilibre des tâches domestiques, bien-être du papa aussi. Dans un instant, le tête-à-tête Europe Matin avec un homme, un papa, un militant du congé paternité. A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9.
Europe 1, il est 7h40. Le congé paternité sera doublé. Emmanuel Macron va l'annoncer aujourd'hui. Mon invité, Tristan Champion, père de 2 enfants, bientôt 3, dans 3 pays d'Europe. Sur Europe 1 ce matin, un regard neuf et éclairé sur le congé paternité.
Le tête-à-tête. Mathieu Béliard.
3 enfants bientôt, je crois, Tristan Champion. Bonjour.
Bonjour, oui, tout à fait, c'est prévu pour décembre, la 3e.
On va en reparler. Premier enfant né en France, 2e en Norvège, 3e en Suisse. Vous êtes auteur de La Barbe et le Biberon aux éditions Marabout. Vous tenez un blog aussi, Barbe à Papa. Doubler le congé paternité, le porter à 28 jours contre 14 aujourd'hui. C'est un engagement militant qui est le vôtre, Tristan Champion. Vous êtes content ?
Alors oui, dans un premier temps, je me félicite de cet allongement parce que le congé paternité des 11 jours date depuis 2002 en France, donc après 18 ans, enfin, il y a un mouvement positif. Donc je sais aussi qu'il y a un investissement de l'État et que forcément il y aura une contribution de tous les Français pour le financer. Hein, on parle de 500 millions d'euros, donc c'est quand même significatif comme investissement. Donc je suis quand même très content pour tous les futurs pères de France qui vont pouvoir doubler leur temps avec leur enfant et accompagner les mères pendant le mois qui suit la naissance.
Mais la commission des 1000 jours, on en a parlé, on a reçu Isabelle Filioza qui est pédopsychiatre et qui a travaillé sur cette commission des 1000 premiers jours de l'enfant. Cette commission préconisait 9 semaines. Quand on regarde ce qui se fait ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas une petite déception sur le nombre de jours ?
Ah oui, forcément qu'on n'est pas aux attentes que la France aurait pu espérer en termes d'égalité homme-femme.
Vous aviez signé, par exemple, Tristan Champion, une tribune, c'était au mois de juin dernier. Il y avait un hashtag, c'était un mois minimum. Là, on est juste sous la jauge.
Exactement, on avait fait cette tribune pour vraiment demander au gouvernement de bouger, mais forcément que nous, nos attentes étaient supérieures. On avait beaucoup travaillé pour exporter le modèle nordique en France, un modèle qui est vraiment beaucoup plus égalitaire puisqu'il ne base pas son modèle sur un congé maternité puis un congé paternité, mais plus sur un congé parental global.
Partagé, on va en parler.
Oui. Tout à fait. Donc du coup, on est sur une évolution sociétale avec cette réforme, mais pas du tout sur une révolution qui aurait pu vraiment changer les rapports égalité homme-femme en France.
Alors, on va avoir du détail aujourd'hui. Emmanuel Macron va préciser cette annonce, mais il y aura un caractère obligatoire sur ces 28 jours. Ça, c'était important de rendre une partie de ce congé paternité obligatoire.
Oui, c'est important parce que quand on voit les statistiques aujourd'hui des pères qui prennent un congé paternité, on s'aperçoit que 80% des pères en CDI le prennent, mais la statistique tombe à 50% pour les pères en CDD. Donc, le rendre obligatoire pourra leur permettre de garantir vraiment la prise de ce congé paternité. Et j'ai lu qu'il y aurait potentiellement une pénalité à l'employeur s'il ne l'octroyait pas. Le terme obligatoire peut faire un peu débat parce que c'est une attente de tous les jeunes pères de prendre ce congé paternité. Donc,
vous croyez, c'est une question que je voulais vous poser à la fin, Tristan Champion, mais vous croyez vraiment que c'est une attente de tous les jeunes pères ? Parce qu'il y a le critère professionnel dont vous parliez, cette difficulté-là, elle existe, c'est indéniable. Mais pas sûr que ce soit l'unanimité chez tous les papas, l'envie de prendre des semaines après la naissance d'un bébé, c'est pas encore complètement intégré.
Ah, pas complètement, mais quand même, si vous lisez les dernières études, 80% des futurs pères, donc de la génération Y, souhaitent davantage de temps avec ses enfants. Donc le congé paternité est vraiment va vraiment leur permettre de passer ce temps et cette proximité avec l'enfant. Et je pense qu'il faut aussi voir la nouvelle génération comme très différente de la nôtre et que ces rapports figés de ce qu'un père doit être par rapport à une mère sont complètement obsolètes et le deviennent de plus en plus rapidement. Donc je pense qu'il faut pas sous-estimer l'envie de la nouvelle génération de bouger sur ces lignes-là, mais pas forcément que des pères, des mères également, qui sont même beaucoup plus actifs que nous sur la réforme du congé paternité parce qu'elles ont bien compris que ça allait aussi les soulager pendant, plus suite à la naissance de l'enfant.
Alors votre témoignage, c'est celui d'un militant du congé paternité, mais il y a aussi votre expérience, Tristan Champion. Trois enfants dans trois pays différents. La France d'abord, la Norvège ensuite et la Suisse pour le mois de décembre, si je vous suis bien. C'est clairement dans les pays scandinaves et en l'occurrence, là vous nous parlez de la Norvège, qu'on est le plus généreux avec les papas.
Ah oui, ça c'est sûr. La Suisse est en dernière position aujourd'hui. Elle n'a zéro jour de congé paternité. La France arrive en deuxième avec 11 jours. Et le modèle nordique et norvégien avec 10 mois de congé parental rémunéré à 100% du salaire à se répartir entre la mère et le père avec quelques règles quand même sur les 10 mois. 3 mois de quota pour la mère, dit congé maternité. 3 mois de quota pour le père, dit congé paternité, et 4 mois au milieu à se répartir comme le couple le souhaite, ce qui rend le système à la fois égalitaire et flexible, et donc totalement en lien avec les aspirations des nouveaux couples.
La particularité de ce modèle-là, je voulais la souligner ce matin, Tristan Champion, c'est qu'on ne le prend pas simultanément en Norvège, on le prend chacun son tour.
Tout à fait, et c'est pour moi l'élément flagrant que la France passe à côté, c'est-à-dire que le système norvégien parle d'alternance, c'est la mère qui commence le congé maternité et le père qui continue. Ce qui change, c'est que du coup, notre rapport est complètement responsabilisé par rapport à l'enfant. On devient pas on n'est pas copilote de l'éducation, mais on devient vraiment pilote, c'est-à-dire qu'on est seul avec son enfant pendant 5 mois à s'en occuper comme une mère le ferait en France.
Et puis comme c'est la norme, mais garder ses enfants à la maison, s'en occuper dans les premiers mois après la naissance, c'est normal. C'est aussi, pardonnez-moi l'expression, c'est autant un truc de mec qu'un truc de maman.
Ah oui, c'est surtout un truc de mec. Et 70% des pères norvégiens prennent au moins 3 mois de congé paternité. Et la société est assez difficile si vous ne les prenez pas parce qu'elle vous considère comme un père non responsable. Et donc, il y a une forte pression sociétale et féministe sur l'implication du père pendant ce congé paternité. Moi, j'ai pu le sentir. J'ai pris personnellement 5 mois. Et l'avantage aussi de ce modèle nordique, c'est que comme on est toute une ribambelle de pères, si je puis dire ainsi, qui prend son congé paternité en même temps, il y a des groupes de naissance qui se créent. Et en fait, au lieu de vivre une expérience avec son enfant, j'allais dire de manière isolée, potentiellement ennuyeuse, on passe une expérience collective avec beaucoup d'autres parents qui, autour de nous, sont en congé parentaux. Donc du coup, la période devient vraiment un épanouissement et loin des problématiques de postpartum qu'on entend beaucoup en France.
Un dernier mot, Tristan Champion. On a beaucoup parlé de l'intérêt du congé paternité pour l'enfant, de l'importance pour la maman, le soutien que ça représente, la question des tâches domestiques, évidemment. Pour le papa, vous allez avoir votre troisième enfant. Ça vous a apporté quoi ?
Beaucoup de connexions et de liens avec mes enfants. Je passe beaucoup de temps avec eux et j'ai beaucoup appris sur leur développement, l'éducation. J'adore aller dans les réunions parents-professeurs pour m'intéresser à ce qu'ils apprennent. Je me dédie beaucoup de temps pour eux parce que finalement, c'est une relation du temps passé qui m'épanouit. Donc, je suis vraiment très enthousiaste à l'idée de cet allongement du congé paternité en France et j'espère que c'est un premier pas et que la France va petit à petit s'inspirer du modèle nordique pour aller encore plus loin dans l'égalité homme-femme.
Merci beaucoup Tristan Champion d'avoir pris quelques minutes pour partager votre expérience. Je rappelle votre blog Barbe à Papa et le livre La Barbe et le Biberon aux éditions Marabout. Tristan Champion sur le congé paternité, invité du tête-à-tête Europe Matin, 7h48. Vous restez avec nous. Première crise sociale et économique pour Jean Castex avec le dossier Bridgestone, l'édito politique de Nicolas Bétou. Dans une minute, avant de retrouver Nicolas Canteloup sur Europe 1. A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h51, l'édito politique de Nicolas Bétou. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Le gouvernement met ces jours-ci la dernière main à son projet de budget pour 2021. Il a même décidé d'en avancer la présentation de quelques jours.
Oui, c'est pour lundi prochain. On est donc dans les tout derniers réglages. Et ce qui est étonnant, c'est que pour une fois, Ce projet de loi de finances ne suscite quasiment pas d'opposition. Le Covid a tellement dévasté l'économie que déverser des dizaines de milliards d'euros sur les entreprises paraît être une évidence et suscite assez peu de réticence.
Sauf sur l'absence de contrepartie demandée par l'État.
C'est vrai, la gauche s'est engouffrée dans cette brèche, accompagnée par tous les syndicats. Leur raisonnement est simple, puisqu'on verse de l'argent à des entreprises, elles doivent en retour s'engager sur ce qu'elles en feront. Alors, il y a les grands principes, par exemple lorsque Bruno Le Maire flèche les aides vers une économie plus verte et plus numérique, bon, ça reste un niveau d'exigence assez général, ok. Mais c'est autre chose dès qu'il s'agit de contreparties mesurables, par exemple sur l'emploi.
Oui, c'est la demande la plus fréquente d'ailleurs. Une entreprise qui reçoit une garantie de l'État doit à son tour garantir l'emploi.
Eh bien c'est ça, et c'est un truc très français en fait. Dès qu'une entreprise reçoit un avantage, par exemple une baisse d'impôt ou même un prêt, on entend dire que c'est un cadeau en espèces qu'elle doit rembourser en nature, en emploi. On a eu ce débat pendant toute la deuxième moitié du quinquennat Hollande autour du CICE, en oubliant bien sûr que ce crédit d'impôt était juste un moyen d'adoucir un matraquage fiscal devenu historique. C'est d'ailleurs un débat que le patronat à l'époque avait complètement raté. Il aurait dû expliquer que le gouvernement ne lui donnait pas de l'argent, non, mais qu'enfin il en prenait un peu moins. Nuance.
Sauf qu'aujourd'hui, c'est bien l'État qui donne des aides ou qui offre des garanties.
Oui, c'est vrai, mais ça s'adresse à des entreprises exsangues. Et l'intérêt suprême du pays, c'est d'en sauver le maximum, pas de mettre en place une bureaucratie avec l'inévitable batterie d'indicateurs et puis l'usine à gaz à faire rougir de plaisir n'importe quel vérificateur. S'il y a une chose dont n'ont pas besoin les chefs d'entreprise en ce moment, c'est bien de ce genre de paperasse.
En tout cas, pour l'instant, le gouvernement ne cède pas. Hein.
Non, il tient. Et en fait, c'est un nouveau test sur la solidité de sa ligne politique. Emmanuel Macron a tenu face à ceux qui voulaient augmenter les impôts des plus aisés au moment du confinement. Il a tenu lorsqu'il a fallu baisser les impôts de production, ces prélèvements stupides qu'une entreprise doit payer avant même d'avoir fait un euro de chiffre d'affaires. Eh bien, le voilà face à l'affaire des contreparties aux aides, il doit tenir.
Et même dans l'affaire Bridgestone ?
Ah ben là, c'est simple. Si ça se faisait, à l'avenir, les entreprises qui sont au bord du gouffre risqueraient de tirer l'échelle plus vite afin de garder de quoi rembourser les aides, justement. Bref, un résultat inverse de ce qui est recherché.
Merci Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion. Et tiens, je vais profiter de votre présence aussi, Nicolas, pour signaler à nos auditeurs la publication d'une tribune aujourd'hui. Une tribune qui est co-signée par une centaine de médias, dont Europe 1, évidemment. Puisque je vous en parle,
L'Opinion.
Votre journal L'Opinion aussi, on peut la lire. Alors que le procès des attentats de janvier 2015 s'est ouvert au début du mois, que la republication des caricatures de Mahomet par Charlie Hebdo a à nouveau suscité moult polémiques, ensemble défendons la liberté, lettre ouverte à nos concitoyens, lettre écrite par de nombreux médias, retrouvée en intégralité sur europe1.fr. Merci Nicolas, il est 7h54. Et tous les matins, nous retrouvons Nicolas Canteloup qui conseille à sa manière l'invité d'Europe Matin. À 8h15, Sonia Mabrouk interviewera François Bayrou, haut commissaire au plan, président du Modem, maire de Pau. Et c'est Emmanuel Macron qui vient bien sûr dire un petit mot à notre invité.
Oui, bonjour à toutes et à tous, monsieur Béliard, monsieur Bétou, que j'ai écouté attentivement. Écoutez, je suis ravi de cette collaboration, faut-il le rappeler, avec François Bayrou. Et c'est vrai que pour des raisons pratiques de facturation, j'ai préféré que, pour que François Bayrou ne s'en mêle pas avec des virements, des déclarations, des notes de frais, des comptes apothicaires, bref, j'ai préféré le payer zéro. Parce que, vous souriez, mais ça facilite grandement la compta de fin d'année. Alors, concernant nos points de rendez-vous avec François Bayrou, nos contacts, parce qu'il est en contact direct avec moi et Jean Castex, bien sûr, pour faire un point régulier aujourd'hui. Alors, je ne peux pas le voir aujourd'hui parce que j'ai conseil des ministres, vous l'avez compris, nous sommes mercredi. Semaine prochaine, je suis à l'étranger, je suis coincé. Écoutez, monsieur Béliard, j'ai une mission pour vous ce matin puisque vous allez le croiser physiquement. Transmettez à François Bayrou, comme c'est un plan sur 30 ans, soyons concrets. On est en 2020. Le mieux, c'est qu'on fasse un point dans 15 ans, 2035. Allez, écoutez, je m'engage. On cale le 23 septembre. Vous notez, monsieur.
Je note, bien sûr.
Notez aussi, monsieur Bétou, parce que oui. J'avais oublié. Le 23 septembre 2035, on dit 10h. Voilà.
Hein,
allez, bonne interview. Merci.
Merci, monsieur le président. C'est signé Nicolas Canteloup qui conseille à sa manière l'invité politique de la matinale. Vous l'avez compris. Sonia Mabrouk reçoit ce matin François Bayrou, haut commissaire au plan. Nicolas, on vous retrouve à 8h45 pour la revue de presse. Il est 7h56. 7h59, nous sommes avec Laurent Cabrol pour la météo.
Et des températures qui diminuent, la pluie qui se précise maintenant, de nouvelles pluies arrivent par la Bretagne, le Cotentin, dès ce matin, puis la vallée de la Loire, la Normandie, la Picardie, le Nord et le Poitou-Charentes dans le courant de la journée. Et puis il y a des pluies qui s'en vont, celles qui étaient orageuses ces jours derniers, nous les retrouvons sur la Côte d'Azur, la région Rhône-Alpes, la Franche-Comté, l'Alsace et les Vosges, sur le flanc Est, c'est là que les pluies vont donc persister encore une bonne partie de ce mercredi, mais enfin sans être trop intenses. Enfin, des régions où ce sera comme ci, comme ça, Gironde, Limousin, Centre, région parisienne, Champagne-Ardenne, comme ci, comme ça veut dire alternance de nuages, d'éclaircies et des averses. Les averses sur Paris seront plutôt présentes en deuxième partie de journée. Et les éclaircies vont percer sur des contrées comme la Lorraine, l'Auvergne, les Cévennes et le Midi-Pyrénées. Et les températures, je le disais, seront en baisse particulière entre 2 et 3 degrés de moins.
Merci beaucoup Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Bonjour François Geffrier.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1, écoutez le monde changer. Il est 8h.
Nous allons abolir le règlement de Dublin et il y aura un nouveau mécanisme fort de solidarité.
Une révolution européenne face aux défis migratoires. Ursula von der Leyen et sa commission veulent amener les 27 à une vraie entraide. L'entraide dans le couple, ce sera un peu plus facile avec 28 jours de congé paternité, dont une part obligatoire. 28 jours, deux fois moins que demandé par les experts, mais deux fois plus qu'aujourd'hui. Il vous est arrivé de perdre l'odorat au cours des 6 derniers mois. Le Covid est peut-être passé par vos narines, mais le plus souvent, ce symptôme révèle une forme bénigne. Dans ce journal, les pistes du gouvernement contre le séparatisme avec les informations de Mickaël Darmon. La future Tesla à 25 000 dollars et 800 km d'autonomie. Et la sortie de Blackbird, film européen qui se penche sur la douloureuse question du suicide assisté.
Les divisions de la majorité, mais aussi les perspectives d'avenir, les projections pour les 30 ans à venir. C'est la nouvelle mission de François Bayrou, le haut commissaire au plan, à 8h15, au micro de Sonia Mabrouk. Soyez les bienvenus sur Europe 1.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Et si cette commission européenne-là était celle de la solidarité? Ce mot, on l'avait entendu cet été. Les dirigeants de 27 pays bien différents s'étaient mis d'accord pour 750 milliards d'euros de relance avec pour la première fois de la dette commune. La solidarité, il en est question de nouveau aujourd'hui sur un sujet explosif pour les opinions publiques, l'immigration, deux semaines après l'incendie qui a détruit le camp de Moria sur l'île grecque de Lesbos.
Bonjour Isabelle Horry.
Bonjour.
En direct de Bruxelles, la Commission européenne va présenter son nouveau plan en matière migratoire. La solidarité, c'était vraiment le point faible aujourd'hui.
Mais oui, aujourd'hui, aucune entraide n'est prévue en cas d'afflux de migrants. Ce qu'on appelle le règlement de Dublin date d'avant la crise migratoire. Ils ne l'avaient pas anticipé. Depuis 5 ans, la Grèce et l'Italie clament donc qu'elles sont abandonnées par les autres. En réponse, Bruxelles propose un nouveau mécanisme. La solidarité deviendra obligatoire dans son principe, mais avec des options. Soit les autres pays prendront une partie des demandeurs d'asile chez eux, ils diront quelles capacités ils ont, soit, et ça c'est nouveau, ils s'occuperont du renvoi de ceux dont la demande a été rejetée. Ils deviendront responsables de la réussite de l'opération, ce qui n'est pas simple, car aujourd'hui on arrive à renvoyer une personne sur 3 seulement. Cette option devrait plaire aux pays de l'Est, comme la Hongrie, qui refuse les réfugiés.
Alors on parle vraiment d'un pacte, Isabelle, qui sous-entend, en échange de la solidarité, plus de responsabilité.
C'est ça. En contrepartie de la solidarité, les pays de première ligne devront être plus responsables. Aujourd'hui, ils laissent filer des migrants qui arrivent ensuite en France ou en Allemagne. La Commission veut donc qu'ils traitent plus vite et mieux les demandeurs d'asile. Dès leur arrivée, les migrants devront être enregistrés dans une base de données européenne. Ensuite, ils devront rester sur place en attendant un premier examen de leur demande, quelques mois maximum, alors qu'aujourd'hui, en Grèce, ça peut prendre plusieurs années. L'Europe apportera son assistance. Si leur demande est jugée infondée, par exemple s'ils viennent de pays sûrs, alors ils seront retenus pour être renvoyés. Voilà, la Commission espère qu'avec cet équilibre, elle va enfin réussir à mettre d'accord les 27.
Isabelle Horry en direct, correspondante d'Europe 1 à Bruxelles. Et à ce propos, 88 migrants secourus hier dans le détroit du Pas-de-Calais alors qu'ils tentaient de rallier l'Angleterre, notamment 3 migrants qui se trouvaient dans un simple kayak à 2h30 du matin.
Un changement assez massif en termes d'évolution culturelle. Voilà comment l'Élysée présente le doublement du congé paternité.
Ce sera donc 28 jours à partir de l'été prochain. Et la nouveauté, c'est qu'une partie de ce congé devra obligatoirement être pris. Les jeunes papas interrogés par Nicolas Feldman pour Europe 1 sont unanimes.
Je dis alléluia parce que prendre le temps d'avoir une relation pérenne avec notre enfant, c'est bien.
Corentin se souvient de la naissance de ses 2 premiers enfants. 14 jours de congé passés trop vite, trop intense. Alors deux fois plus de temps pour l'arrivée du troisième, il signe tout de suite.
Je pense que c'est très important de jouer un rôle de père à 100% pendant 28 jours auprès de l'enfant. Les premières nuits, on sait qu'elles sont assez physiques et assez difficiles pour la mère. Donc soulager un petit peu la mère et jouer ton rôle de père à fond pour le bébé, ça peut être pas mal. Et 28 jours, c'est pas trop.
Et ce n'est pas Sonia, jeune maman, qui va le contredire.
Pour un premier enfant, en fait, en deux semaines, on arrive à peine trouver nos marques. Enfin, je me rappelle de ce sentiment que « Ah, il reprend déjà, je veux rester toute seule à la maison, il faut que je sois prête. » Donc oui, plus, c'est plus rassurant pour la famille, quoi.
À l'image de ce qui se fait pour les mamans, une partie de ce congé paternité va lui aussi devenir obligatoire. La durée reste à déterminer. Le dispositif sera détaillé dans un texte soumis au Parlement au début de l'année prochaine.
La France commande 30% de doses supplémentaires de vaccins contre la grippe saisonnière pour éviter une saturation des hôpitaux cet hiver. Et en pleine épidémie de coronavirus, vous avez peut-être sursauté un jour ou l'autre ces derniers mois en constatant que vous ne sentiez plus l'odeur d'un parfum ou d'un plat. Vous vous êtes dit, ça y est, j'ai le Covid.
Bonjour Victor Dolan.
Bonjour Mathieu.
La perte de l'odorat, c'est bien un symptôme du Covid, mais celui-là ne serait pas forcément si inquiétant que ça.
Oui, si vous perdez l'odorat, ça veut dire que vous avez beaucoup plus de probabilités de faire une forme légère de la maladie. Je vous explique. L'hôpital Foch à Suresnes et l'université de Mons, en Belgique, ont mené une vaste enquête dans toute l'Europe. Ils ont suivi 1300 patients atteints du coronavirus pour les placer dans 4 groupes en fonction du niveau de la gravité de la maladie. Les légers, qui sont restés chez eux sans problème, les modérés, avec quelques difficultés respiratoires, les sévères, qui ont eu besoin ponctuellement d'apport en oxygène à l'hôpital, et les très sévères qui ont été placés en réanimation. Entre 70 et 85% des patients légers ou modérés ont perdu l'odorat, contre seulement 10 à 15% des patients graves. L'hypothèse des chercheurs, c'est que la perte d'odorat, qu'on appelle l'anosmie, signifie que le virus arrive non seulement dans le nez, mais également dans le système nerveux central. Mais le virus est contenu par le système immunitaire et ça évite qu'il passe dans le sang et les poumons, ce qui est le cas dans les formes graves. Cette étude montre aussi que 3 patients sur 4 récupèrent l'odorat 2 mois après la fin de la maladie. C'est long donc, mais ça revient.
Merci Victor Dolande.
Un report du discours d'Emmanuel Macron contre les séparatismes, discours prévu hier. Il aura lieu dans 10 jours. Le projet de loi n'était visiblement pas abouti. Mickaël Darmon est en direct avec nous. Mickaël, vous avez des informations sur le contenu du futur texte?
Oui, avec une surprise, une évolution de la loi de 1905, celle qui fonde le principe de la laïcité et la séparation entre les religions et l'État. Gérald Darmanin souhaite la toiletter, comme il dit, sur son volet financement, pour permettre à des associations cultuelles de percevoir des revenus officiels, des revenus, j'ai bien dit, pas des subventions, avec une comptabilité transparente et agréée. L'objectif est de contrôler les flux financiers de ces associations via la cellule Tracfin de Bercy, afin de repérer et fermer celles qui seront accusées de séparatisme. La loi de 1905, on le sait, c'est toujours explosif. Et pour préparer les esprits, bien Gérald Darmanin explique autour de lui qu'elle a déjà été toilettée 17 fois. Autre ligne d'action, bien le renforcement des mesures pour garantir la neutralité religieuse des agents de la fonction publique. Et selon nos informations, les ministres de l'Intérieur étaient impressionnés par le rapport sur la radicalisation dans les services publics et dans le sport. Et dans ce secteur également, une batterie de mesures est en préparation. En fait, le ministre de l'Intérieur souhaite démanteler le texte qui avait été préparé par Christophe Castaner parce qu'il veut frapper plus fort.
Alors ça, c'est la vision de Gérald Darmanin. Est-ce qu'elle est partagée par tout le monde?
En tout cas, je peux vous dire que ça s'agit déjà en coulisses. Certains au sein de l'exécutif souhaitent que le texte soit assez musclé au risque de se faire censurer par le Conseil constitutionnel, mais ça permettrait au gouvernement de prendre l'opinion à témoin. D'autres voudraient éviter un rejet pour que le texte s'applique assez rapidement. Et il y a un autre enjeu plus politique. Il faudra faire bien sûr adopter le texte au Parlement par une majorité qui penche plus à gauche que le gouvernement et qui ces temps-ci est d'humeur morose et peu disposée à l'égard du président de la République.
Mickaël Darmon, chef du service politique d'Europe 1. En justice, dans le dossier Fourniret, une dizaine d'ADN inconnus ont été repérés sur un matelas saisi en 2003 dans la maison de la sœur du tueur en série. En plus donc de l'ADN d'Estelle Mouzin, ces nouvelles traces génétiques seront comparées avec celles d'autres affaires non élucidées.
Vous restez avec nous dans un tout petit instant. Bientôt, une Tesla au prix d'une Mégane. La voiture électrique à 25 000 $, c'est pour dans 3 ans selon Elon Musk.
Et puis la sortie cinéma du jour, Blackbird avec Kate Winslet et Suzanne Sarandon.
A tout de suite, il est 8h08.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h10 sur Europe 1, la suite du journal, François Geffrier.
On a rarement vu un spectacle avec autant de voitures de luxe sur le parking. Il faut dire que les convives étaient des actionnaires de Tesla, tous venus avec les modèles de la marque. Et ils sont restés sagement à l'intérieur en mode drive-in pour écouter, c'était hier, les annonces du patron Elon Musk.
À long terme, nous sommes convaincus que nous pourrons concevoir et fabriquer un véhicule électrique de $25,000. Cela a toujours été un rêve depuis le début de notre société. Notre première voiture était une voiture de sport très chère, puis nous avons fait des véhicules un peu moins chers pour arriver à des voitures haut de gamme, grand public. Mais cela a toujours été notre but, de fabriquer un véhicule électrique abordable. Et je pense que dans 3 ans, nous pourrons fabriquer ce véhicule électrique de $25,000 qui sera complètement autonome.
Vous aurez noté les applaudissements au klaxon pour Elon Musk. 2 minutes 30 de manœuvre, propulseur allumé hier pour la Station Spatiale Internationale qui a ainsi évité la collision avec l'un des 77 morceaux d'une ancienne fusée japonaise désintégrée. Ça rappelle un petit peu le film Gravity. Il faut dire que la station file en permanence à plus de 27 000 km/h.
Et à propos de cinéma, la sortie aujourd'hui de Blackbird, réalisée par Roger Mitchell, à qui l'on doit notamment Coup de foudre à Notting Hill.
Un film européen qui a touché Mathieu Charrier.
Blackbird traite d'un sujet lourd, mais sans être plombant. C'est la force de ce film lumineux. L'histoire de Lily, c'est Suzanne Sarandon, condamnée par une maladie dégénérative et qui décide de réunir un dernier week-end toute sa famille et sa meilleure amie avant de mettre fin à ses jours. Alors tout le monde est au courant.
Est-ce qu'on peut essayer d'avoir un comportement aussi normal que possible ?
Et chacun profite à sa manière de ces ultimes moments ensemble. Il y a des règlements de compte, des rires aussi.
Anna, Chris, vous dormez, je vais bientôt mourir, vous vous joignez à nous.
Mais ce qui frappe, c'est surtout l'amour qui unit cette famille dans ce moment si particulier, souligne Kate Winslet, qui joue l'une des deux filles de Lily.
It's so human. Ce n'est pas triste du tout, c'est humain. Quand vous côtoyez la mort, vous êtes à l'extrême limite de vos émotions. Et ça déclenche des choses extrêmes en vous, de la tristesse, des rires, tout est très intense.
Depuis qu'on a choisi une date, j'ai arrêté de penser à la mort et j'ai concentré toute mon énergie sur la vie.
Bien sûr, le film est engagé en faveur du suicide assisté, car au fil des minutes, on voit le corps de Lily lâché et on comprend cette décision de mettre fin à ses jours. Mais le débat existe à l'écran. On n'est pas non plus dans le mélodrame suintant les bons sentiments, mais dans un huis clos bouleversant, une célébration de la vie bourrée d'amour et d'humour.
Mathieu Charrier, on termine avec un record, celui de Marinette Pichon, dépassée par Eugénie Le Sommer hier soir. 82 buts en équipe de France de football et c'était la 4e victoire des Bleus en 4 matchs de qualification à l'Euro. Succès 7-0 contre la Macédoine du Nord.
82 buts.
Ouais.
51 pour Thierry Henry, hein. L'équivalent chez les hommes. 82 buts donc pour Eugénie Le Sommer. Merci beaucoup François Geffrier. C'était le journal de 8h sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Et nous retrouvons Sonia Mabrouk et son invité. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Notre invité est chargé de réfléchir à la France des années 2030, au moment où l'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Le haut commissaire au plan met le cap sur le lointain avec un œil quand même pour Emmanuel Macron sur 2022. C'est François Bayrou qui est notre invité ce matin.
A tout de suite, il est 8h13.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h16 sur Europe 1. L'invité politique d'Europe Matin, votre invité Sonia Mabrouk, c'est François Bayrou, haut-commissaire au plan.
Bienvenue à vous et bonjour François Bayrou.
Bonjour.
Jean Monnet, l'artisan de la panification en France, avait pour coutume de dire « Le plan ne décide pas, il oriente ». Est-ce à dire que vos pistes ne seront que consultatives ou bien vous envisagez de les faire adopter vos propositions ?
J'espère en tout cas que poser les questions et dessiner des pistes pour répondre aux questions, j'espère que ça va aider à la décision. Mais pas seulement à la décision des gouvernants. Parce qu'en réalité, si on réfléchit bien, si on regarde bien les choses, sur la plupart des sujets, qu'est-ce qui pèse dans la décision des gouvernants ? C'est l'opinion publique. C'est-à-dire vos auditeurs, vous-même, parce que commentateurs et faisant passer des idées. Et donc, la réalité, c'est que si on touche l'opinion publique avec un certain nombre de sujets, alors les gouvernants écoutent. Et c'est le but que nous nous sommes fixés. C'est-à-dire que, après un long temps où on avait l'impression, trop souvent, que la décision politique depuis 20 ans, peut-être plus, était uniquement dirigée par l'urgence, par les scandales, par les accidents, par tout ce qui bouillonnait sur les réseaux sociaux ou sur les télévisions en continu. De sorte que les Français avaient l'impression qu'on ne savait pas très bien où on allait. Et donc, essayer de montrer à 10 ans, 20 ans, 30 ans, quel est le chemin à suivre, alors moi je trouve que ça peut d'une certaine manière aussi rassurer les Français.
Et est-ce que vous en avez l'assurance, François Bayrou, est-ce que vous avez l'assurance du président de la République que ce travail que vous allez mettre en marche sera pris en compte, mais vraiment, réellement?
Alors, d'abord, c'est plus qu'une assurance parce que le président de la République a voulu qu'on fasse renaître cette grande entreprise, cette grande aventure de la réflexion de l'avenir en commun. Pour une raison aussi qui est très importante, c'est que quand on réfléchit loin, alors ça rassemble plus les gens que l'actualité immédiate qui, elle, est source de conflits, d'affrontements, de disputes qu'on n'arrive même pas à éteindre. Et donc, ça aussi, c'est un facteur de rassemblement. Mais je crois, moi, que plus on réfléchit de manière, j'allais dire détendue, en tout cas, sans la pression de l'immédiat, en se demandant où on veut aller. Je vais prendre un exemple très simple. Tout le monde se rend compte qu'il faut avoir une politique de l'eau. Que l'eau, pour la France, pour l'humanité, on est dans des temps de sécheresse, il faut avoir une politique de préservation et de gestion de l'eau. Alors si c'est à l'instant, alors vous avez un problème d'un lac collinaire dans un département du sud et ça crée des passions et des bouleversements. Mais si vous réfléchissez à long terme...
Mais monsieur Bayrou, vous ne pourrez pas faire fi des passions. Je vous prends un autre exemple. Vous parlez de l'eau, parlons du nucléaire. Est-ce que vous irez contre les politiques actuelles? Est-ce que vous aurez cette audace? Certains disent qu'il faut préserver la politique industrielle et nucléaire, la souveraineté de la France. Vous pourriez aller contre la politique de programmation du nucléaire en France, de baisse de programmation du nucléaire?
Oui, il y a une question centrale. Si vraiment pour la protection du climat, la question principale, comme beaucoup de scientifiques le disent, c'est l'émission de gaz à effet de serre, c'est-à-dire tout ce qui vient de la combustion des hydrocarbures, si vraiment c'est ça le sujet, alors, je ne vois pas, mais ça c'est à titre personnel de citoyen.
Oui, c'est important.
Les études qu'on va produire le montreront ou pas. Mais moi, je ne vois pas comment on peut à la fois baisser les émissions de gaz à effet de serre et se détourner du nucléaire, qui est la seule source qui, de ce point de vue-là, la seule source massive, est une source propre, on va dire, qui n'émet pas de gaz à effet de serre. Et donc, ceci est une question. Vous avez exactement là l'exemple
Mais vous ne pourrez pas être consensuel sur ce sujet, monsieur Bayrou. Parce que depuis tout à l'heure, vous nous dites « moi je ne veux pas provoquer de débat, de choses clivantes, on attend de vous
débat,
de trancher
». Mais des affrontements, on peut essayer de les éviter. Mais peut-être vous avez... j'ai dit hier devant le Conseil économique et social ce qu'est la méthode que je vais suivre. On va poser les problèmes, on va les exposer de manière brutale s'il le faut, de manière nette... sans se perdre dans des phrases qui ne servent qu'à noyer le poisson. On va les exposer en termes simples pour que tout le monde puisse les comprendre, que tous les citoyens y aient accès et aient envie d'y participer. Et ensuite, on va ouvrir plusieurs pistes de réponse.
Mais est-ce qu'on peut...
Et ces pistes de réponse-là, elles ne seront pas toutes dans le même sens. Il y aura, des débats violents et des choix. On va dans tel sens ou dans tel autre sens. Vous venez d'exposer un des sujets sur lesquels, naturellement, il faudra faire des choix.
Est-ce qu'on peut à la fois, François Bayrou, réfléchir à la France de 2030, 2040 et même plus, et s'occuper aussi, parce que vous le faites, de la réélection d'Emmanuel Macron en 2022?
Oui, je ne suis pas dans le problème électoral. Ce plan, cette réflexion que nous allons conduire ensemble, naturellement, elle pourra inspirer les programmes des uns et des autres. Mais je vais faire la différence très précisément, autant que je pourrai.
Parce que vous êtes toujours président du MoDem, me semble-t-il.
Mais je crois que je vais y arriver. Je vais faire la différence entre les impératifs électoraux et le soutien, le jugement qu'on peut apporter à l'action des gouvernants et du président
de
la République.
Vous allez donc mettre une muraille de Chine entre le président du MoDem et le haut commissaire au plan ?
Je vais cultiver quelque chose qui est assez souvent oublié aujourd'hui, qui s'appelle l'impartialité. On peut avoir des opinions, et on doit avoir des opinions. Comme citoyen, comme personne, comme père de famille, on a des opinions, on a des préférences et des choix. Mais on peut examiner les problèmes de manière
impartiale. Mais vous
êtes
à la tête d'un parti, j'entends bien, et je veux quand même vous poser la question, qu'arrive-t-il, François Bayrou, au parti dont vous êtes le premier allié, La République En Marche, départ du numéro 2, défaite cinglante aux législatives partielles ce dimanche, des députés qui quittent le parti ? Rien ne va plus ?
Alors je vais vous dire, et ce que je vous dis là, je l'ai dit au président de la République depuis le premier jour et chaque fois que nous en avons parlé. C'est très difficile de faire un parti nouveau. Et si vous regardez le paysage politique français, chaque fois que on a essayé ou on essaie de fonder un parti nouveau, chaque fois il y a de grandes difficultés, des crispations, des rivalités. Et au fond, le MoDem, le mouvement démocrate, est un des seuls partis nouveaux qui ait réussi à s'enraciner. Et croyez-moi, ça n'a pas été facile.
Mais qu'est-ce que vous lui dites, le président ? Donc, attention, regardez ce qui est en train de se passer. Votre numéro 2 quitte ses fonctions.
Alors, ça n'est pas au président de la République que j'ai envie de m'adresser si je dois adresser un message sur ce sujet. C'est à ceux qui sont les acteurs de ces crispations et de ces discussions. J'ai envie de leur dire ceci. Nous sommes dans le temps de crise le plus aigu que la France ait traversé depuis plus d'un siècle, et peut-être beaucoup plus. Avec, on sent bien, des secousses, des répliques, comme on dit pour un tremblement de terre, qui vont venir.
Et donc, vous leur demandez de ne pas quitter le bateau
avec,
maintenant ?
Avec les entreprises qui sont en difficulté parce qu'elles n'ont plus de carnet de commandes, avec des licenciements prévisibles, avec toutes les adaptations qui ne sont pas faites, et l'invention d'une nouvelle manière de constituer
voilà,
ou de construire l'économie française.
Voilà, on le connaît, ce constat, malheureusement. Oui.
Et donc, ce n'est pas le moment de se livrer à des rivalités internes.
Ce ne sont que des rivalités internes, ça ne va pas plus loin pour
si,
ce parti.
Ce sont des difficultés de ligne, des difficultés très importantes.
C'est important
parce
ce que vous dites, M. Bayrou, vous avez dit la ligne.
Oui.
Certains quittent le parti en disant « eh bien, son point d'équilibre est trop à droite ». Ils ont tort ?
Encore une fois, moi je ne suis pas membre de En Marche.
Vous êtes le premier allié
et je
en tant
suis,
que
oui,
président du MoDem, c'est important.
Il y a dans la majorité, et j'espère que nous en incarnons un, il faut qu'il y ait des pôles d'équilibre, des pôles de stabilité. Et si je peux, si nous pouvons, toute l'équipe qui m'entoure, on essaiera de construire un de ces pôles de stabilité-là. Mais quand la crise est si brûlante, ça n'est pas le moment de se livrer aux guerres internes. Mmh. Je ne sais pas sous quelle forme je peux le dire, mais la politique, c'est souvent ça, hein, des rivalités, des contestations, ça marche comme ça, hélas. Et au fond, je suis absolument certain que la forme des partis politiques doit changer. Leur manière
d'exister. Allons plus loin. Est-ce qu'Emmanuel Macron a vraiment besoin d'un parti pour 2022 ?
Oui, je lis beaucoup d'articles sur ce sujet et je vous entends. Je ne sais pas ce que cette phrase signifie. Un président de la République, il a un contact direct avec les Français. Mais cependant, avoir autour de lui des équipes solidaires, des gens qui s'entraident, des gens qui s'entendent.
Vous les voyez, vous ?
Eh bien, ce n'est pas que je les vois, mais je pense qu'il faut qu'ils s'organisent de cette manière-là. D'une manière, vous vous souvenez, Emmanuel Macron a été élu aussi en partie grâce à l'idée de la bienveillance. Ben, ce qui serait bien, c'est que la bienveillance commence à l'intérieur. La bienveillance commence entre ceux qui l'ont soutenu, ceux qui se sont prononcés devant les Français pour son élection, et que ces querelles reculent.
À bon entendeur. Monsieur le commissaire au plan, je voudrais qu'on termine véritablement sur la France, j'allais dire du lointain. La Chine vient de lancer les nouvelles routes de la soie. La Turquie veut reconstituer l'Empire ottoman d'ici le milieu du siècle. La péninsule arabique prépare l'après pétrole. Et la France ?
Alors, et la France et l'Europe ? Parce que devant les mastodontes dont vous venez de décrire les projets et les arrière-pensées, évidemment, un pays seul, isolé, ne pèse pas. Posons-nous une question très simple. Qu'est-ce que nous serions aujourd'hui dans la crise s'il n'y avait pas eu la Banque Centrale Européenne qui nous a permis d'emprunter des dizaines et centaines de milliards à 0%. 0%, ça veut dire qu'on peut différer l'amortissement dans longtemps, le temps de se rétablir. Qu'on a pu ainsi avoir ce qu'on appelle, quand on achète un appartement ou une maison, un différé d'amortissement. C'est très important. Et c'est dû uniquement au fait que la Banque Centrale Européenne est une des grandes banques du monde.
Mais c'est ça notre projet pour les prochaines années ?
Et donc, oui, c'est le moyen de porter les projets qui sont les nôtres pour les prochaines années. La solidarité européenne dans ce monde, livrée à toutes les épreuves de force, est une nécessité vitale.
Merci François Bayrou, merci d'avoir été notre invité ce matin. Bonne journée à vous et à nos auditeurs, bien sûr.
Merci Sonia Mabrouk, 8h29.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Vous restez bien sur Europe 1 dans un instant, un point sur l'info avec Hélène Zélani, la météo Laurent Cabrol, notre santé avec le docteur Jimmy Mohamed. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Il est 8h32, un nouveau point sur l'info avec Hélène Zélani.
Emmanuel Macron sera cet après-midi dans un centre de protection de l'enfance à Longjumeau dans l'Essonne, occasion de détailler l'annonce sur le congé paternité qui va passer de 14 à 28 jours d'ici le 1er juillet 2021. Pour le vice-président de l'Association nationale des directeurs des ressources humaines, c'est une avancée logique. Écoutez Benoît Serre.
C'est plutôt une bonne mesure. Elle est logique avec trois éléments qu'on voit évoluer. Le premier, très important, qui est l'égalité femmes-hommes. La deuxième chose, c'est la dimension de plus en plus forte de qualité de vie au travail et d'équilibre de vie privée ou professionnelle. Et puis, le troisième élément, c'est les politiques de responsabilité sociale des entreprises. Maintenant, le sujet, c'est les conditions de sa mise en œuvre. Ce qu'on ignore encore aujourd'hui, c'est si ce congé paternité désormais, donc de 28 jours, sera obligatoire ou pas. Ça, c'était pas souhaité ni par un certain nombre d'organisations patronales. Nous, on est plutôt favorable à un dispositif d'incitation fort pour que les entreprises laissent leurs collaborateurs prendre librement les congés paternité qu'on leur reconnaît.
Un propos recueilli par Nicolas Feldman. Selon l'Élysée, il y aura bien une part obligatoire dans ce congé, mais elle fera l'objet de discussions avec les partenaires sociaux. Coût pour la sécurité sociale, plus de 500 millions d'euros. Un médicament japonais donne des résultats encourageants pour traiter le Covid. Selon le groupe Fujifilm, l'Avigan, déjà autorisé pour des formes de grippe sévère, permet de réduire de manière significative le temps de guérison des patients. Résultat d'un essai clinique mené sur 156 personnes. Une centaine de médias, dont Europe 1, appellent à soutenir Charlie Hebdo. Une lettre ouverte demande aux Français de se mobiliser en faveur de la liberté d'expression après les nouvelles menaces contre le journal en plein procès des attentats de janvier 2015. Aujourd'hui, la cour d'assises de Paris poursuit l'examen de l'attaque de l'hypercachère de la Porte de Vincennes avec l'audition de rescapés de cette prise d'otage qui avait fait 4 morts. Et puis Eugénie Le Sommaire au firmament du football féminin. L'attaquante de l'Olympique Lyonnais est devenue hier la meilleure buteuse de l'histoire des Bleus. 82 sous le maillot tricolore, les Bleus, qui l'ont emporté hier contre la Macédoine du Nord en match qualificatif à l'Euro.
Merci Hélène Zélani, 8h34, le temps avec Laurent Cabrol.
Alors commençons par la pluie qui s'en va, la perturbation d'hier, elle est un petit peu nonchalante et désœuvrée, il faut bien le dire, elle est sur la Côte d'Azur, la région Rhône-Alpes, la Franche-Comté, l'Alsace et les Vosges. Elle se situe dans ces contrées, ce sont ces contrées qui seront les plus, disons, les plus mouillées, si je puis dire, ce matin. Mais une nouvelle zone de pluie plus dynamique arrive. Elle touche la Bretagne. À 5h, elle était encore à 150 km. La voici maintenant aux côtes bretonnes, sur les côtes bretonnes, sur le Cotentin. Et elle va gagner la vallée de la Loire, la Normandie, la Picardie, le Nord et le Poitou-Charentes dans le courant de la journée. Et puis nous avons des régions où, là, ça traînaille un peu, il pleut un peu. Nous avons des éclaircies, c'est le cas de la région parisienne. Des éclaircies ce matin, mais surtout des averses dans l'après-midi, comme en Champagne-Ardenne, comme dans le Limousin ou la Gironde. Enfin, sur la Lorraine, le Dijonais, l'Auvergne, les Cévennes et le Midi-Pyrénées, les éclaircies vont percer, mais vraiment très timidement. Les températures maximales aujourd'hui, entre 20 et 25 degrés. Ça baisse, et ça ne fait que baisser.
Merci beaucoup, Laurent Cabrol. 8h35, dans un instant, on prend soin les uns des autres dans Europe Matin. Notre santé avec le docteur Jimmy Mohamed. Les asymptomatiques du Covid sont aussi contagieux que les autres. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h37 sur Europe 1, notre santé avec le médecin d'Europe 1, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à tous.
Jimmy, ce matin, vous allez nous parler d'une étude qui vient tout juste de sortir à propos des personnes atteintes du Covid, mais asymptomatiques. On savait qu'elles étaient contagieuses. Qu'apprend-on de nouveau ?
Alors effectivement, on savait qu'elles étaient contagieuses, raison pour laquelle il fallait porter un masque même en l'absence de symptômes. Mais là, on apprend quelque chose d'assez incroyable, c'est qu'elles seraient autant contagieuses que les personnes avec des symptômes. Alors, c'est une étude coréenne, un cluster dans la ville de Daegu, 3000 contaminations au sein d'une communauté religieuse. Sur ces 3000 personnes, plus de 200 ont accepté de participer à l'étude, dans laquelle on a 20% de personnes qui sont asymptomatiques. Pas de nez qui coule, pas de fièvre, rien. Et 80% restants qui ont une forme modérée, des courbatures, de la fièvre, de la toux, mais pas d'hospitalisation. Eh bien, on s'est rendu compte que les personnes qui sont asymptomatiques, mais qui ont une PCR positive, évidemment, ont autant de virus dans le nez que les personnes qui vont tousser et avoir de la fièvre. Alors évidemment, ce n'est qu'une étude préliminaire et qui concerne uniquement des gens plutôt jeunes, entre 20 et 30 ans, et peut-être qu'on ne peut pas extrapoler aux personnes de 40, 50 ans ou plus. Néanmoins, là, je pense qu'il va falloir vraiment prendre conscience qu'il faut porter un masque, même en l'absence de symptômes, et peut-être même que lorsque vous avez des symptômes, c'est peut-être déjà trop tard, puisqu'on sait que vous êtes très contagieux dans les 2 à 3 jours qui précèdent l'apparition de symptômes, et puis là, vous êtes autant contagieux que ceux qui n'ont pas de symptômes. Bref, porter un masque, surtout que 10% des malades sont responsables de 80% des contaminations au sein de ce qu'on appelle des super contaminateurs.
Et comment on fait du coup, Jimmy, pardon, pour aller à la recherche de ces super contaminateurs ?
Alors il va falloir le faire car la situation se dégrade. En médecine de ville, les médecins voient de plus en plus de malades. Aux urgences, il y a de plus en plus de passages pour Covid et le taux d'hospitalisation et le nombre de malades en réanimation sont en train de se remplir. Donc il va falloir faire quelque chose. Le taux de positivité des tests a encore grimpé de 10%. Alors peut-être que c'est les tests salivaires qui vont nous aider. Vous savez, ces tests qui sont peut-être un peu moins performants, mais qu'on va pouvoir répéter et on va pouvoir aller à la chasse, justement à la pêche, à ces super contaminateurs qui sont responsables de beaucoup de malades. On sait que notre système de détection et de traçage est mauvais, nous ne sommes pas assez performants. Néanmoins, ce qu'il faut se dire, c'est que si jamais on portait un masque correctement, si on se lavait les mains, si on arrêtait de faire des réunions et des fêtes, ben, on n'aurait pas besoin de se faire tester car on ne serait pas malade. Donc on peut toujours pointer du doigt le système défaillant, mais on a, nous, une responsabilité individuelle et collective dans le port du masque. Porter un masque dans tous les lieux clos, c'est peut-être la seule façon de protéger notre système et peut-être aussi notre économie.
Merci, merci Jimmy Mohamed, le médecin d'Europe 1 que vous retrouvez de 15h à 16h avec Mélanie Gomez, l'émission Sans rendez-vous, 8h40. Nous retrouvons Fanny Agostini pour Notre Planète. Bonjour Fanny.
Bonjour Mathieu.
Attention, écoutez bien, montez le son même. Vous vouliez ce matin, Fanny, nous parler de la pelouse comme étant l'une des pires inventions des temps modernes.
Totalement. Je vais vous expliquer pourquoi, Mathieu. Entretenir son gazon est une vraie aberration écologique dans le sens où c'est une dépense faramineuse d'énergie, en eau déjà, pour ne pas qu'elle se dessèche, en carburant pour faire marcher la tondeuse, en engrais chimiques pour la maintenir et bien sûr une perte de temps énorme pour effectuer toutes ces tâches.
Vous nous dites que la tondeuse est aussi une machine à broyer la biodiversité.
Mais oui, mais complètement. Alors que, à l'inverse, les espaces non tondus sont des zones refuges. Les hautes herbes servent d'abri, de nourriture et de lieu de reproduction à la biodiversité. Ayons à l'esprit que le gazon est une forme de monoculture et que privilégier la diversité végétale est bien meilleur, notamment pour les insectes pollinisateurs. Si toutefois, vous ne pouvez pas souffrir qu'un brin d'herbe dépasse, il faut au moins essayer de patienter en retardant la tonte au maximum pour que les plantes puissent réaliser leur cycle et monter en graines et donc puissent se reproduire, en général plutôt après la mi-juin. Ou sinon, pratiquer ce que l'on appelle la tonte différenciée, c'est-à-dire en ne tondant qu'une partie de votre terrain pour laisser libre champ à la biodiversité sur des espaces que vous souhaitez leur dédier, leur réserver.
Vous parlez des vertus de ne pas tondre, alors qu'aux États-Unis, négliger sa pelouse peut vous valoir une grosse amende.
Alors là-bas, ça va très très loin. L'an passé en Floride, un homme s'est vu rappelé à l'ordre par sa municipalité et menacé d'une amende de plusieurs milliers de dollars parce qu'il n'avait pas tondu sa pelouse depuis des mois et que le terrain devenu une jolie prairie faisait désordre à côté des carrés verts impeccables du voisinage qui était vraisemblablement outré par cette grave négligence. Dans la ville de Jupiter, c'est même un moyen très tordu de faire rentrer de l'argent en taxant les personnes dont le gazon dépasserait les 20 cm. Alors si aux États-Unis on touche le fond, ici en France, nous pouvons montrer l'exemple. Si nous avons un jardin, adoptons des pratiques de bon sens ou suggérons à nos maires de multiplier les espaces verts en ville en laissant opérer la diversité tout en conservant tout l'attrait récréatif de ces lieux. Un des meilleurs exemples que j'ai en tête, parce qu'auparavant j'habitais là-bas, le parc de l'île Saint-Germain à Issy-les-Moulineaux. Là-bas, c'est assez sauvage. Il y a des massifs de fleurs spontanées qui côtoient des ronciers et des zones en jachère à côté d'espaces agréables plus aménagés pour s'asseoir ou pour pique-niquer. Alors, il faut trouver un juste milieu, mais le mieux étant de dire définitivement non, non au gazon.
Merci Fanny Agostini, sauf pour le football, si je puis me permettre. Mais
football,
sinon, je suis d'accord
oui.
avec vous surtout. Fanny Agostini, Notre Planète, il est 8h42.
Europe 1. Mathieu Béliard.
Nicolas Canteloup et Julie s'installent, la revue de presque dans quelques toutes petites secondes.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
9h moins le quart sur Europe 1. Ils sont là, Nicolas Canteloup et Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore dans le studio, Sonia Mabrouk et son invité.
Eh oui, je reçois le haut commissaire au plan, François Bayrou. François Bayrou, Jean Monnet, grand spécialiste du plan, disait « Le plan ne décide pas, il oriente ». Donc en gros, vous ne savez rien, François Bayrou.
Ça commence.
Attention, je vais faire une réponse de 11 minutes. Vous savez, je crois qu'il faut, Nia Mabrouk, poser les bonnes questions. J'espère que cela va aider à prendre les bonnes décisions. Car si on réfléchit bien, qu'est-ce qui pèse ? C'est avant tout l'opinion publique. La réalité, c'est que... Oh putain, mais c'est déjà chiant ! Ça va être long, long, long ! On comprend pourquoi Emmanuel Macron vous a donné 30 ans ! Est-ce que vous avez l'assurance réellement, François Bayrou, que vous allez servir à quelque chose réellement, François Bayrou, dans les faits, concrètement, François Bayrou ? C'est plus qu'une assurance, Madame Mabrouk. C'est lui qui m'a voulu. Quand on réfléchit loin, à 30 ans, cela, on s'en rend compte, touche plus, rassemble plus. Plus on réfléchit de manière... comment vous dire ? De manière... Parce que non seulement je parle lentement, mais en plus je cherche les bons mots. Comment vous dire ? Attention, je vais trouver un mot fort. Plus on réfléchit de manière détendue, voilà.
Oh putain, mais t'es détendu sans sanctuaire !
Qu'on ne réfléchit pas dans la pression de l'immédiateté. Oh putain, non,
ah oui,
pas
non, mais...
pas dans l'immédiateté. Mais François Bayrou, François Bayrou. Non, attendez, je vais prendre un exemple.
Non.
Prenons la politique de l'eau. Ça, c'est un vrai sujet, l'eau, à titre mondial. Mais prenons, bien, le problème d'un lac collinaire.
Il y a Laurent qui dit aïe.
Dans une région du sud. Le lac ruisselle, mais la source est bouchée. Ça crée des soucis en aval, bien qu'en amont...
Oh putain, mais il nous raconte maintenant des sources. C'est long, c'est long, c'est long.
D'accord, l'eau, mais parlons d'un vrai sujet qui... clivant, le nucléaire, François Bayrou, le nucléaire. Alors, sur le nucléaire, il y a une question centrale. Pas mieux.
Si, si.
Question centrale, oh là, vous l'avez, la monsieur.
Oui, ah, oui, oh là là, oui, oh là, c'est bon, allez.
Oui, c'est bon, on a compris, putain. Putain, mais les congés maternité passés à 28 jours, mais accouche, François, accouche. Pour la prochaine, je la fais au forceps avec césarienne. À vous, Julie.
Ah, merci, Sonia. Allez, Mathieu, on vous retrouve pour l'essentiel de l'actu.
Oui, bonjour. Bonjour, chère Julie. Bienvenue sur Europe 1. Bienvenue à tous. Tout de suite, l'info du jour, elle est politique et médicale à la fois, disons-le, c'est l'hospitalisation d'Alexandre Benalla. Étonnant, d'habitude c'est lui qui envoie les gens à l'hôpital, le garde du corps et oui, positif au Covid et se sentait mal, vraiment c'est une petite nature. Le premier garde du corps sans anticorps. L'autre info, c'est le congé maternité qui passe, nous l'avons dit à l'instant avec Sonia, qui passe de 14 à 28 jours. C'est génial, c'est génial. 14 jours de plus chez soi avec son enfant, profiter de son enfant à la maison. Voilà, on sait aussi 14 jours de plus à se lever en pleine nuit pour faire des biberons, 14 jours de plus à voir sa femme exténuée et irritable, et 14 jours de plus à se dire qu'on n'en fera jamais un deuxième. En tout cas, on invite les jeunes parents. Tiens, allez voir, avec masque ou sans masque, si, avec masque, pardon, l'excellent film de l'ami Adrien Piquet-Gauthier. Ce film, c'est Bouchou. La meilleure comédie de ces 30 dernières années.
Ah.
Oui, on pousse un peu loin les potards, c'est un copain.
Ah, d'accord.
Ça sort aujourd'hui, c'est drôle, c'est touchant. Heureusement qu'un masque n'empêche pas de rire. Allez, foncez au cinéma, ça vous détend.
Adrien Piquet-Gauthier, hein, on va retenir. Ouais, Bernard Laporte, le président de la Fédération française de rugby, a été entendu hier matin par la police financière. Bonjour Bernard Laporte, comment vous allez ?
Oui, bonjour, super, super. Nous, on n'est pas la politique du copinage. Bonjour, ma chère Julie. Bonjour, Mathieu Billard. Bonjour à tout votre pack, tout le pack. Mm-hmm. Cabrol est là. Jimmy Mohamed, tout le monde est là. Écoutez, je suis très heureux d'avoir pu éclaircir certains points avec l'autorité judiciaire. Je n'aimerais pas avoir des mêlées avec la justice.
Des mêlées? Waouh!
Des mêlées avec la justice.
Jeu de mots.
J'ai évité la pénalité. J'en ai un autre. Ce matin, c'est la vérité qui est à l'honneur. T'as l'honneur.
Waouh!
Il a donné l'exemple avec la centrale nucléaire à Beyrouth. Donc, j'enquille derrière. Voilà, on peut se défendre. Non, franchement, monsieur Bédard, on peut se défendre avec humour, hein, avec un sens du calembour français. C'est la bonne humeur de l'Ovalie qui rejaillit dans vos micros bleus aujourd'hui.
Oh, ouais, enfin, vous pouvez toujours vous cacher derrière la bonne humeur. Vous êtes quand même empêtré dans une drôle d'affaire, là. Hein.
Merde. Ça se voit, là, que ma stratégie...
Ça s'est vu, oui. Ouais.
Ça s'est vu. Plus sérieusement, je trouve que cette garde à vue va donner une super image néanmoins du monde de l'Ovalie.
Pas trop, non, on trouve pas du tout.
Si, ouvrez les yeux, un regard plus large. Regardez les footballeurs, on compare. Les footballeurs,
ouais.
Ils vont être condamnés pour propos racistes et propos homophobes. Ça, c'est très, très moche, c'est très moche. Alors que moi, je suis arrêté par qui? Par la brigade de répression de délinquance économique et le parquet financier. Pardon, mais c'est pas le même niveau. C'est pas le même niveau que les rugbyman. Ça prouve quoi? Ça prouve que nous, les rugbyman, on est sur le financier. Ouais, on est plus intelligents que les footballeurs.
Voilà.
Nous, on bat en tôle, mais pour le pognon.
D'accord. Allez. Bon, merci.
On est malin.
Merci Bernard Laporte. Emmanuel Macron était hier en visite. Non, monsieur Bayrou, c'est bon. On vous a accompagné à votre voiture, je crois, non?
Ah, pardon.
Emmanuel Macron était en visite hier dans un EHPAD dans le Loir-et-Cher et nos équipes étaient sur place.
Oui,
il y a du monde, il y a du monde.
Merci à tous. Bonjour à toutes et à tous. aux soignants, bien sûr, à vous les soignants qui soignaient, aux médecins qui médecinent, aux vieux qui vieillissent, vous êtes tous là, merci. Écoutez, je veux saluer ici tous les personnels qui s'occupent avec abnégation de nos aînés, avec conscience, qui leur apportent leurs mots fléchés, qui leur collent ici ou là leurs dentiers austéradents, qui leur épongent le visage à la lingette quand ils se barbouillent de glace à la pistache. Vraiment, je voulais vous remercier très sincèrement de ces efforts à vous, les personnels qui êtes en contact.
Oui, bonjour, pardon, monsieur le Président. Oui, juste là, ici au deuxième rang. Bonjour, je me présente, Christiane. Je travaille dans cet EHPAD depuis 1998 et je voulais vous demander quand est-ce qu'on aura plus de personnel, parce que là, nous sommes trois. Monsieur le Président, pour 237 seniors.
Oh là là, le boulot.
Écoutez, chère Christiane, j'en prends bonne note. Soyez rassurés, nous allons bientôt bâtir une loi pour investir dans le grand âge ces prochaines semaines. Vous aurez donc notamment des mots fléchés sur iPad, des perfusions connectées, des fauteuils roulants reliés à la 5G pour repérer les patients qui peuvent, ici ou là, s'enfuir.
Oui, j'entends. Non, mais c'est gentil, monsieur le Président, mais on voudrait avoir plus de personnel parce que nous sommes trois pour 237 seniors.
Oui, j'entends, cher, votre prénom ? Christiane. Christiane, nous voulons, je tiens à vous le dire, créer un haut commissariat de gestion des EHPAD métropolitain qui se réunira tous les mois impairs et qui débattra des vraies questions liées au troisième âge et qui nous concernent tous.
Oui, mais pour le personnel, comment on fait? Parce qu'il y en a trois, nous, pour 237 personnes. Ça ne fait pas beaucoup de monde.
Vous avez raison de le rappeler, chère Christiane. Ne croyez pas que je noie le poisson. Mais nous allons mettre, sachez-le, des menus végétariens dans toutes les cantines, en circuit court et produits selon l'agriculture biologique avec le label Paysan Plus.
Oui, mais enfin, le personnel, il nous faut du personnel, on est trois, là.
Écoutez, Christiane, quand je vois, je vous vois, ici à quelques mètres de moi, pour respecter cette distanciation sociale, quand je vois votre dévouement, on se dit que personne ne ferait mieux que vous. Je pense même, excusez-moi d'aller plus loin, mais je pense que même vous mettre quelqu'un, pardonnez-moi d'être trivial, mais vous mettre quelqu'un dans les pattes, ce serait vous insulter, freiner votre action. Hein, voilà, vous avez compris. Voilà, merci, bientôt. Et pensez à vous hydrater. Au revoir.
Oh là 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 là.
Oh, mais dites donc, Mme Julie, vous avez entendu.
Ma pauvre Christiane, bah oui.
Mais j'espère que votre famille n'habite pas dans le Loir-et-Cher et que ça ne les gêne pas de marcher dans la boue. Parce que vous savez, vous avez vu, cet hiver, ça ne va pas être joli, joli encore. Hein. Bon, allez, je vous laisse, je dois mettre à charger les perfusions connectées à 5G. Encore plus l'enfant.
Oh, bah, ma pauvre, allez, courage, Christiane. On va revenir sur ses soupçons de dopage sur le Tour de France. Nelson Montfort, bonjour. Alors, des gendarmes ont fait une perquisition dans l'hôtel occupé par l'équipe française Arkea Samsic.
Oui, bonjour, mon cher Gilles. Bonjour à toute l'équipe du Morning. Du dopage dans le cyclisme, dites-vous. Mais non, non, c'est pas possible. C'est comme une mise en examen pour un ministre Sarkozy. Je tombe de ma chaise.
N'en faites pas trop quand même, hein, Nelson. S'il vous plaît.
Mais évidemment que j'en fais trop. Rien. Non, mais franchement, Julie, allons, ouvrez les yeux. Rien de nouveau sous le soleil. Non. Nothing new under the sun. Il y a du dopage dans le cyclisme, du racisme dans le foot, de l'évasion fiscale chez les joueurs de tennis, des magouilles au sein de la Fédération française de rugby. Non, mais si vous voulez un sport propre, ma chère Julie, mais passionnez-vous pour la pétanque. Voilà. Mais je vous préviens, vous allez vous faire yesh.
Alors, les soupçons se portent sur le coureur colombien de l'équipe française, Nairo Quintana. Son équipe qui a perdu d'ailleurs, tiens.
Non, ce n'est pas vrai. Un Colombien qui se drogue et une équipe française qui perd. Bon, écoutez, si, mais ma chère Julie, si c'est ça vos révélations sur Europe 1, des trucs qu'on sait depuis 40 ans, je préfère rendre l'antenne. Hasta luego et vive le sport, bien sûr.
Nicolas Canteloup et Julie, la revue de presse à retrouver sur Europe1.fr. Un coucou aux auteurs de Nicolas, Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian et Arnaud Demanche. Il est 8h57 sur Europe 1. Philippe Vandel nous a rejoint, c'est Culture Média, la matinée continue. Bonjour Philippe.
Évidemment, bonjour Mathieu, on sera là jusqu'à 11h. Notre info média du jour, vous en avez parlé dans les journaux, c'est cette grande lettre ouverte pour la liberté d'expression initiée par la rédaction de Charlie Hebdo et RIS, notamment signée par plus d'une centaine de médias, dont Europe 1, du jamais vu dans le milieu de la presse française. On serait avec les patrons des rédactions de Nice Matin, Denis Carreau et de l'Express, Éric Scholl. Nos invités ensuite, Benoît Hamon, pas pour une nouvelle candidature à la présidentielle, mais pour un podcast garanti anti-déprime. On sera aussi avec la co-créatrice du podcast, Camille Mestracci. Et puis enfin, là encore c'est unique, Alexis Michalik, metteur en scène, auteur de 5 pièces de théâtre pour une rentrée exceptionnelle, je pèse mes mots. Ces 5 pièces reprennent à Paris en ce moment, il sera avec nous.
Eh bien à tout de suite pour Culture Média et pour ma part à demain, je vais vous souhaiter une très belle journée à présent, je reviens demain en direct à 7h. D'ici là le monde aura changé, on va vous le raconter.